Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour. Salut Florent.
Salut. Salut.
Comment ça va?
Ça va, je suis un peu fatigué là. je sors de ma séance où t'étais là.
Ouais.
Il faisait un peu froid ce matin, l'eau n'était pas très chaude non plus, mais on est au chaud à la maison et bien accompagné, c'est cool.
Ouais. Mais écoute, j'ai vu ce matin là en sortant de l'appart à Nice, ressenti à 2 degrés, tu vois, j'étais... Ouais. Je te remercie pour ce réveil matinal.
Alors c'est moins pire qu'ailleurs en France, mais ouais. On est sur la Côte d'Azur. Je nage en extérieur toute l'année, donc c'est un côté cool. On bronze, on peut bien respirer aussi parce que dans les piscines c'est il y a beaucoup de chlore et forcément pour les poumons c'est pas le top. Donc voilà, c'est juste un petit peu dur quand l'eau est un peu froide et qu'il fait un peu froid dehors. Donc ce matin c'était un des moments un petit peu compliqués niveau ressenti. Hein. Il faisait 2-3 degrés. Plonge à 8h30 je crois ce matin et voilà, mais ça fait partie du sport et ça contrebalance les jours de mai, juin où il fait 30 degrés et qu'on se régale à bronzer dans la piscine.
Ouais, mais tu vois ce qui m'a marqué ce matin là, petit après on commencera avec les questions un peu plus scriptées on va dire, mais c'est que tu vois, je voyais les petits jeunes avec lesquels tu t'entraînes.
Ouais.
Et tu sais, ils rouspètent, ils se frottent le corps et tout.
Ouais.
Toi tu le dis, t'as froid, mais tu... À la limite, t'en fais des blagues et tu vois, tu te moques un peu des autres, mais tu le montres pas, tu vois. T'as une posture, genre, c'est bon, quoi.
Je pense que...
Faut pas trop se laisser influencer.
Oui. Ouais, en fait, bah, c'est froid. Pour rien changer, à partir du moment où c'est froid, ou qu'un truc t'emmerde, bah, écoute, ça t'emmerde, et puis tu le mets dans un coin de ta tête et t'y penses plus, parce que si tu te focalises là-dessus, bah, forcément, tu vas pas avoir un bon mood pendant toute la séance et... Moi, j'ai la chance d'être un peu grand, costaud, un peu gros aussi. Enfin, j'ai un peu de tissu adipeux, tu vois. Donc, forcément, j'ai peut-être moins froid qu'un mec comme Mathéo, qui a 18 ans, qui fait 60 kilos. Forcément, il a un peu plus froid que moi. Mais ouais, voilà, il fait froid. Je blague avec les mecs, avec les mecs qui s'occupent de la température. C'est pas de leur faute, mais tu vois, je lâche des petits trucs comme ça, c'est un petit peu drôle et je plonge, j'ai froid pendant 200 mètres et après j'enchaîne et voilà, j'essaie de mettre ça un peu de côté et de tirer le meilleur possible de ma séance et
ouais.
Mais j'étais pas comme ça à 18 ans évidemment.
Tu râlais?
Bah tu râles parce qu'il fait froid et que parfois il fait beaucoup plus chaud, donc tu te dis bah j'ai pas envie d'être dans ces conditions, mais au final tu dois bien t'entraîner, donc de toute façon t'es dans l'eau, tu continues.
Ouais.
Hein.
Ouais, t'as pas le choix.
Non.
Non, bah écoute, en tout cas, c'est rassurant de savoir que après, je sais pas combien de temps ça fait que tu nages, quasiment 30 ans, je pense.
Quasi 30 ans, ouais. Je commence en 94. Ouais. Ça fait long.
T'as même pas fait les, t'as fait les bébés nageurs ou pas?
Bébé nageur, non, je crois pas, mais j'ai eu ma première licence en 94-95, donc ouais. Ça va faire 29 ans en septembre que je nage.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non, pas trop.
Non, mais moi, c'est rassurant de se dire que même après 29 ans, on a toujours froid, quoi.
T'sais, on a toujours froid, et je pense même encore plus parce que on plonge tous les jours, voire deux fois par jour, et ouais. Et c'est vraiment le pire moment de l'entraînement pour un nageur, c'est le moment où on se met dans l'eau parce qu'il y a ce choc un peu. Ton corps, il a 37 et ouais, tu plonges dans de l'eau, même si elle est chaude pour le commun des mortels, et que quand tu vas à la mer et qu'elle a 27, elle est bonne, mais quand il fait 3 degrés dehors. T'as vraiment pas envie de plonger dans de l'eau à 27 ni à 26. Bon, ce matin elle était à 25,5, donc c'était un peu plus froid que d'habitude, et voilà, mais ça fait partie du job.
Ouais.
C'est comme ça.
Est-ce que toi aussi, enfin tu vois, moi quand je plonge dans l'eau, j'ai direct la sensation de ok, je vais avoir les sensations aujourd'hui ou je vais pas les avoir. Ouais. Toi aussi t'as ce truc genre au bout de ta première longueur, tu sens tout de suite l'eau différemment, les bons jours et les mauvais jours.
Moi, je pense que ça a à voir avec la contraction musculaire que t'arrives à mettre, à voir à ce que tu vas faire et ce que t'as fait. Par exemple, là on est lundi matin, ça dépend ce que t'as fait le week-end aussi. Moi, ce week-end, j'ai pas fait grand-chose, j'étais dans mon canapé quasiment tout le week-end, j'ai fait un déj hier, samedi je suis allé chez un pote, mais vu que t'es pas actif tout le week-end, forcément le lundi matin, faut que ton corps il se remette en route, encore plus à 32 ans. Donc ce matin, je savais que ça allait se passer comme ça. En plus, il fait froid, la séance, il y a pas grand-chose dedans. Ouais. Donc tu te laisses aller un petit peu, tu sais que voilà, il va pas se passer grand-chose, tu plonges. Les sensations sont pas extrêmement bonnes, mais je sais par contre que ce soir mon corps sera beaucoup plus prêt et que ma tête aussi sera beaucoup plus prête à travailler. Donc tu peux avoir des mauvaises surprises, peut-être que ce soir j'ai plongé, je me sentir pas très bien, mais généralement c'est comme ça que ça se passe.
Ouais. Mais du coup comment tu fais quand t'es en compète? Tu essayes de passer pas mal de temps dans l'eau avant les courses pour justement avoir ce relâchement musculaire et tout, parce que t'as quand même, genre, enfin, pour moi ton plus gros point fort c'est d'arriver le jour J et d'être super prêt, quoi. Du coup, comment tu fais pour avoir les meilleures sensations, les meilleurs trucs, enfin les meilleurs ressentis le jour J?
C'est une planification en fait, déjà. Ouais. sur la saison, les sports olympiques, les sports individuels comme ça, c'est on se prépare toute l'année pour être bon sur une ou deux compétitions maximum. Donc au niveau de la physio, on s'entraîne beaucoup, puis après on s'entraîne un petit peu moins, on fait plus de qualité, plus d'intensité, plus de qualité, et vraiment sur la fin on appelle ça l'affûtage. Donc on garde un petit peu l'intensité mais on baisse encore le kilométrage. Donc forcément t'es moins fatigué et forcément ta contraction musculaire est meilleure quand t'es sprinter. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la tête. Quand je me réveille le matin d'une compétition, j'ai rarement la tête dans le cul, tu vois. Je sais qu'en fait que ce jour-là, il faut que je sois bon. Ouais. Donc je dors différemment, je pense. Je me réveille, je suis déjà un petit peu plus en forme. Je m'échauffe aussi un petit peu mieux. Je passe pas énormément de temps dans l'eau à l'échauffement, mais c'est vraiment la sensation. Je peux faire 200 mètres comme 1000 mètres avant une course. Dès que je me sens bien, je sors un petit peu. Ça dépend de ce que j'ai besoin.
Ouais, ok.
C'est vraiment, mais je suis un peu différent des autres. Je suis vraiment, vraiment un pur sprinter et je fais vraiment beaucoup de choses à la sensation.
Ok. Pour avoir rencontré pas mal de sprinters, mais plutôt sur piste, tu vois, tu as certains sports vraiment d'intensité, de puissance, tu vois. Il y a un peu tous les caractères, tu vois. Il y a ceux qui ont besoin de rigoler, de faire le show.
Ouais.
Tu vois, plutôt style Usain Bolt. T'as ceux qui se mettent vraiment dans leur bulle, qui parlent à personne, façon Jimmy Vico. Oui. T'as ceux qui ont besoin de chambrer, de rigoler, pour extérioriser un peu le stress. Il y a ceux qui sont irascibles. Toi, tu te mettrais dans quelle catégorie?
Ça dépend des moments, je crois. Ça dépend de si j'ai nagé vite à la compète d'avant. Hein, si, mais j'étais très renfermé sur moi, un peu à la Jimmy. Pendant de longues années, jusqu'en 2016, donc mes deux premiers Jeux Olympiques. Et après, je me suis un petit peu plus ouvert parce que j'avais envie de le faire un peu différemment.
Okay.
Et je préfère ça pour l'instant. J'arrive quand même à m'ultra concentrer très rapidement, donc j'essaie de pas me concentrer trop tôt, en fait. Maintenant, je me concentre en 10-20 secondes. Ça me suffit pour vraiment m'ultra concentrer et me focaliser sur ma course. Okay. Donc je vais pas le faire pendant un quart d'heure avant la course en chambre d'appel, etc. C'est pas vraiment quelque chose que je fais maintenant, mais que je faisais avant. Et voilà, je rigole avec avec mes potes nageurs, etc. Et par contre, au moment où tu rentres sur la plage de départ et que tu vas nager, bah là c'est tu te fermes un petit peu plus, quoi.
Ouais.
Ça va pas aller jusqu'à Usain Bolt à chambrer ou à rigoler 5 secondes avant le départ, mais j'arrive quand même à m'ultra concentrer très rapidement.
Ok. Et c'est quand t'étais plus jeune, c'était facile à gérer la chambre d'appel justement avec toute cette testostérone là dans qui tient dans 20 mètres carrés. Bon, toi t'as gagné jeune en plus. C'était quoi?
J'avais 21 ans, ouais.
C'est le nageur brésilien là qui
Cielo.
Ouais. J'allais dire Cielo, mais je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Désolé, si tu nous écoutes, je voulais pas écorcher ton nom. Mais tu vois, ouais, avoir tous ces gars là qui sont bourrés de testostérone et tout, justement quand t'es peut-être un peu plus jeune et tout, c'est pas impressionnant. Comment ça se gère ça?
Ça se gère beaucoup avec la préparation mentale, en fait.
Ouais.
Moi, je suis arrivé.
T'en as fait beaucoup, toi?
Ouais, j'ai commencé à en faire en janvier 2012.
Ouais.
Avec Thomas Samut qui est préparateur mental de Mathieu Fer par exemple en ski, qui était préparateur mental de l'OGC Nice pendant quelques années. Enfin, là il fait le Sail GP le bateau, tu vois.
Ouais.
Enfin, et moi j'ai commencé à bosser avec lui en 2012.
Parce qu'il il a fait tout le cercle des nageurs de Marseille.
Ouais.
Hein.
Ouais. Il a fait Camille Lacour, il a fait Fabien Gillot, etc.
Fred aussi, j'imagine, non?
Fred un petit peu, mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait pendant toute sa carrière.
Ok.
Parce que Fred était un petit peu aux États-Unis de temps en temps, donc c'était un peu un profil un peu différent. Mais donc j'ai bossé avec lui et en 2012, du coup, moi, il faut que je me qualifie au 50 nages libres au jeu. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y avait Alain Bernard, que tu as vu ce matin en muscu. Ouais. Il y avait Fabien Gillot, il y avait Amaury Levaux et Fred Bousquet. Et donc, il fallait être dans les deux premiers. On était 4 plus moi, parce que je me mettais absolument pas dans cette catégorie-là.
Ouais.
Alain était champion olympique du 100 mètres. Amaury et Alain étaient sur le podium olympique du 50 en 2008. Ouais. Fred était le meilleur nageur de 50 en short, parce que c'est quand on a enlevé les combinaisons, c'était le meilleur, donc pour moi c'était impossible de le battre, en plus c'était mon beau-frère à l'époque, et Fabien a été 3e au championnat d'Europe. Donc moi je suis là, et là bon bah voilà, il faut que je batte 3 de ces mecs là au moins pour me qualifier. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé avec Thomas et Thomas m'a dit bah c'est quoi ton point fort, c'est où que tu te sens fort. Je dis bah je suis beaucoup plus fort que les autres en muscu. J'ai plus de force brute, je la transfère bien dans l'eau, je suis plus grand, je suis plus costaud. Il m'a dit bah faut que tu t'appuies dessus. Et en fait, tu fais de la PNL, de la préparation neurolinguistique,
ouais.
Où tu te persuades de quelque chose. En gros, c'est très très schématisé, mais en gros c'est ça. Tu te dis, en gros, c'est moi le meilleur, etc. Comme ce que disait de Jimmy, ce qu'il faisait aux États-Unis maintenant, en se regardant dans le miroir.
Et ça marche, tu vois, ce type de
ça
méthode.
Ça fonctionne quand tu te.
C'est pas surtout, mais
si jamais tu te dis, je suis pas bien, forcément tu peux pas être bien. Si tu fais l'inverse. Ça peut fonctionner, le cerveau fonctionne comme ça, t'as des connexions qui se font, et ça fonctionne comme ça. Et quand je suis arrivé derrière le plot, je me suis dit, bah, de toute façon, je pousse plus lourd qu'eux, je suis plus fort qu'eux, c'est pas possible qu'ils me battent. Et j'ai fini 2e, derrière Amaury Levaux, qui se qualifie au jeu. Malheureusement, Fred ne se qualifie pas, et je voulais faire les jeux avec mon beau-frère, donc c'était un moment un peu compliqué, mais ça se gère comme ça, et puis après, c'est un petit peu plus facile.
Ouais.
Quand on sait qu'on s'est qualifié devant des mecs comme ça, on se dit j'ai peut-être ma place, tu vois. Ça a duré un petit peu de temps, mais je me suis senti assez légitime très tôt.
Ouais, ok.
C'était plus facile.
Ouais, donc ça aide après dans la chambre. Ouais. Une fois que t'as battu ces mecs-là, c'est sûr que la chambre d'appel avec
les
internationaux, c'est tu l'as.
Bah t'avais César qui était un peu compliqué parce que César, en fait, t'as des types
de
mecs.
Il a une personnalité lui, hein.
Ouais, il était dur en chambre d'appel parce que. C'était un mec qui déstabilisait ses adversaires. Et moi, j'étais plutôt focalisé sur moi, comme je te dis. Et j'ai bossé ça aussi avec mon prépa mental. Il m'a dit, un mec qui veut te déstabiliser, il va être déstabilisé s'il voit que tu ne réponds pas. Donc moi, j'étais sur ma chaise comme ça, il faisait son show. Et moi, j'étais là, tu vois, sur ma chaise. Je regardais pas. Et à ce moment-là, ça s'inverse. Le mec qui veut te déstabiliser, s'il voit que tu le regardes pas, s'il voit que ça a aucun impact, Voilà, il se dit putain merde, ça va pas marcher, et c'est lui qui commence à gamberger, tu vois, donc c'est un peu des choses auxquelles tu penses avec ton préparateur mental et que moi j'ai mis en place qui ont fonctionné très très tôt et, et après pareil, je l'ai battu au jeu en 2012 et il m'a rebattu en 2013, je l'ai rebattu en 2015, hein, tu vois, après tu sais que tu verras le meilleur gagnera, mais ce jeu d'intox là, tu peux perdre des courses, t'en gagnes pas, mais tu peux en perdre beaucoup par contre.
Ouais. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce qu'on le voit pas ça à la télé, tu vois.
Non.
On s'imagine qu'il y a du bluff et de l'intox, que les mecs se jouent un peu des coudes et tout, mais
énormément sur les épreuves de sprint.
Ouais.
Beaucoup plus avant que maintenant. Maintenant, c'est un petit peu plus bon enfant, tu vois. On a parce que ça te prend de l'énergie quand même de faire ça, de gérer tout ça et maintenant je suis plus à parler avec mes potes. Je suis un peu plus âgé aussi, donc j'ai une approche différente du sport. Je suis pas à la recherche de quelque chose que j'ai pas eu parce que j'ai gagné les titres que je voulais. Je suis juste là pour m'amuser, essayer de faire le meilleur possible. Et ça a fonctionné au jeu. À Tokyo, j'ai fait deuxième, tu vois. Donc c'est cool. Et je veux rester dans cet état d'esprit parce qu'autrement, ça te bouffe aussi une énergie folle, quoi.
Ouais. C'est sûr qu'à partir du moment où tu rentres dans l'état d'esprit de non seulement tu veux être bien, mais tu veux aussi battre les autres.
Ouais.
Tu vois, je pense que c'est plus des paramètres que tu maîtrises, quoi. Tu maîtrises plus comment les autres se sentent et comment tu peux
un
les,
peu différent, ouais,
les influencer, quoi. Mais ouais, j'avais entendu ça sur Cielo que c'était pas.
Ouais. Tu vois, par exemple, on est en ligne, on est en libre en chambre d'appel avant de rentrer sur la page de départ. Et si t'as la malchance d'être devant César, donc il est derrière toi, eh ben il va te souffler un peu dessus, tu vois, il va se taper pour que t'entendes, des choses comme ça. Donc c'est un truc, t'es dans ta course, c'est un truc qui te dérange et c'est là où faut être bon et rester dans ton projet, rester focalisé sur ce que tu fais. Et c'est super important, mais c'est aussi super drôle à voir. Tu dis, putain, le mec essaie de faire ça, tu vois. Et si tu te bats après, t'es un peu fier de toi, tu te dis, bah le mec il a essayé, mais moi j'ai pas réussi.
Mais c'est vrai que si tu sors de la scène, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Il est ridicule, le mec, tu vois, tu te dis,
oui.
Presque, c'est
un mec, tu prends un individu lambda.
Qui aime pas le sport, qui regarde ça.
Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Juste, il va nager et on verra bien qui c'est qui gagne le meilleur, tu vois.
Ouais.
Mais, non, t'as plein de jeux d'intox comme ça qui se passent.
Et du coup, tu commences en 2012, la prépa mentale. Mais avant, t'en avais pas besoin. C'était tout roulé, quoi.
Bah, j'ai fait ma première sélection en équipe de France en été 2011.
Ouais.
Et après, je suis parti à Marseille en avril 2011. Après m'être sélectionné au championnat du monde.
Ouais.
Et on était parti en stage en Martinique, décembre 2011 jusqu'en janvier 2012. Et c'est là que j'ai commencé à bosser avec Thomas. Comme ça, j'ai essayé, tu vois. Et ça a fonctionné.
Ça a bien fonctionné.
J'aime l'homme aussi. C'est un pote maintenant. Et je travaille toujours avec lui. Mais, mais c'est d'autres mécanismes. Après, t'évolues tout le temps, tout au long de ta carrière, je trouve.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et peut-être t'as parlé un petit peu de ta position là, de petit jeuneau là qui rentre dans l'équipe. Mmh. Maintenant, c'est toi le capitaine, tu vois. Donc
moi, le plus vieux.
Dis-toi, j'osais pas le dire. Ouais, c'est toi qui l'as dit.
C'est comme ça. C'est comme
le
ça.
Plus expérimenté, le plus médaillé aussi. Tu dirais quoi un petit jeune du coup qui arrive, tu vois, qui est nouveau, qui se dit putain, là je dois battre Florent, là, je dois battre machin tel pour me qualifier, ça va être hardcore. Tu vois, qu'est-ce que tu lui recommanderais, tu vois?
Bah d'avoir confiance en eux, de prendre du plaisir aussi, parce que moi je vois les choses beaucoup comme ça, beaucoup avec le plaisir.
Ouais.
Mais je prends beaucoup le parallèle de Matteo Roba là, qui est un jeune qui je pense nagera vite plus tard, qui nage déjà vite mais qui va passer un palier dans pas longtemps, je pense. Bah à l'entraînement, si jamais je le bats, c'est normal pour lui. Mais si tu commences à réfléchir comme ça, il me battra jamais. Donc moi je lui dis, parce que j'ai aussi ce rôle là de passeur de témoin, je lui dis, il faut que tu me battes là. J'ai 32 ans, à l'entraînement je suis bon, mais il y a des moments où je suis plus fatigué que toi, il faut que tu me battes. C'est ton rôle aussi. Moi, quand j'étais à Marseille et que j'étais contre Fred Mousquet, bah, je me disais pas, je suis plus jeune, je suis moins fort, j'essayais de le battre à chaque fois. Et ça arrivait de temps en temps. Parfois, c'était lui qui me battait. Puis petit à petit, lui, il est devenu un petit peu plus vieux. Donc, à l'entraînement, il était moins rapide qu'en compétition. Moi, c'était l'inverse. J'étais en pleine bourre. J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, forcément, à l'entraînement, j'étais un petit peu meilleur que lui, tu vois. Donc, Et si tu te mets cette barrière là, en fait, je pense que bah tu gagnes jamais. Si jamais tu dis de toute façon ces mecs là, moi je veux viser la cinquième place, tu feras jamais mieux que cinquième. Hein. Mais par contre, t'as le droit. En France, c'est très compliqué parce que les gens n'aiment pas trop dire bah moi je veux gagner.
Ouais.
Quand t'es peut-être dixième sur les start list, mais tu te dis pas bah je vais faire huitième. Bah non, tu vas à une compétition, tu veux gagner, même si les mecs sont plus forts.
Bien sûr.
Tu sais jamais. Pourquoi j'en sais rien moi. Des équipes de foot ou enfin dans le sport t'as toujours des gens qui sont moins forts qui battent des plus forts. C'est comme ça, généralement c'est le favori qui gagne, mais quand même c'est
sinon
pas
sinon ça serait plus du sport, ça serait pas des statistiques,
voilà,
c'est
pas
des
maths.
Maths
quoi, tu vois. Donc à un moment donné il y a des mecs moins forts qui m'ont battu, j'ai battu des mecs qui étaient plus forts que moi et ça s'inverse, tu vois. Moi au jeu en 2012 je dois jamais gagner et je dois gagner en 2016, bah c'est l'inverse qui s'est passé et c'est pour ça qu'on regarde le sport, c'est pour ça que les gens regardent le sport aussi. Et donc je dirais confiance en soi et beaucoup de plaisir, pas trop grand berger, tu vois, parce que le sport c'est aussi dans la cour de récré quand t'as 10 ans et que tu te dis bah le premier qui touche le mur a gagné, c'est aussi ça, tu vois, faut arrêter de se poser des questions à un moment donné, juste y va quoi, tu verras bien ce qui se passe.
C'est important d'avoir une bonne ambiance aussi, parce que en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur, tu vois, j'ai pas forcément demandé les petits potins et tout, je connais pas tout, mais on se disait, tu vois, les nageurs de Marseille, le club là, c'est ils sont potes, ils gagnent tout, ils font la fête ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils sont invincibles quoi. Tu vois, tu te disais vraiment la vie de rêve quoi.
Ouais, on se le disait aussi. Puis quand t'as ton pote qui est champion du monde, tu sais que toi t'es dans le même groupe, tu peux l'être aussi.
Ouais.
Il y a aussi ce mécanisme qui fonctionne. Et
ça t'apprend l'humilité aussi, non?
Ouais, énormément. Et puis moi ce que j'aime avec le sport, c'est que t'as beau être bon, t'as beau je sais pas moi gagner de l'argent, avoir des sponsors, bah à 8h t'es dans l'eau comme le mec qui a pas de sponsor, qui est peut-être moins bon que toi, et en fait ça te remet à chaque fois l'épée sur terre. Tu dis bah c'est dur, ça va être aussi dur que le mec qui est moins fort, le mec qui est plus fort. On est tous pareils et t'as des jours où t'es moins bien, des jours où t'es mieux, et c'est le sport. Mais j'ai deux exemples, c'est que à Londres, Jeux Olympiques pour la natation française, incroyable. Donc t'as d'abord je crois que c'est Camille Muffat qui gagne en première, donc elle est championne olympique. T'as le 4x100 qui gagne aussi derrière.
Ouais.
T'as Yannick qui gagne, qui explose tout le monde au 200. T'as le 4x2 filles et garçons qui font des médailles, et moi j'arrive à la fin de cette semaine là j'étais personne, tu vois, enfin j'étais le frère de ma sœur et puis j'étais bon. J'allais peut-être faire une finale et c'était déjà bien. Mais quand tu vois tous tes potes gagner et l'énergie que ça engendre, eh ben, je pense que ça m'a aidé à gagner en 2012.
Ouais, cette porte.
L'inverse en 2016, c'est-à-dire qu'on commence les jeux, on fait deuxième du 4x100, donc on n'est pas content. Camille Lacour fait cinquième du Sando, donc c'était un pote très très proche. Enfin, c'est un pote très proche. Donc t'es déçu, et puis après il y a eu des problèmes avec Yannick au 4x2, il voulait pas faire le relais, puis il était malade, enfin que des trucs, tu vois, un peu pas pareil. Et ben moi j'arrive à la fin de cette semaine là on avait pas de médaille, enfin on avait la médaille du 4x100, pas de titre. Flo de toute façon c'est le favori, il faut qu'il gagne, etc. Et cette énergie négative, tu vois, il faut que au lieu de bah peut-être que moi aussi je vais gagner, j'ai fait deuxième, tu vois, pour un centième. Il y a pas que ça, il y a aussi mon histoire perso et j'étais arrivé au bout d'un cycle, mais peut-être que si l'énergie générale des jeux de cette semaine a été différente, j'aurais peut-être gagné.
Ouais.
Mais c'est aussi le sport, tu vois.
Bien sûr.
Et ça s'est passé au championnat du monde l'année dernière, où moi je fais pas de médaille, mais t'as le petit Léon Marchand là qui cartonne en ce moment, qui gagne le premier jour le 404 nage. C'est super important en fait de bien commencer la compétition, parce que c'est un jeune. Léon, il a 20 ans. Et quand toi aussi t'as 20 ans, 22 ans, que t'es dans l'équipe de France et que tu vois un mec de ton âge qui est champion du monde. T'as une Marseillaise, tu te dis, tiens, moi aussi, t'as eu des médailles comme ça on pensait pas qu'elles allaient arriver. Et, tu vois, Analia Pigré, par exemple, qui a fait médaille au 50 d'eau, on pensait pas. Max, qui était évidemment capable de faire des médailles, en a fait deux au 50 et au 100. Tu vois, il fait un barrage au 50 contre un des meilleurs nageurs de 50 de tous les temps. Il gagne le barrage. Et au final, il fait médaille derrière. Et c'est ces petits déclics-là, en fait. Et ça, je pense que c'est très lié à l'énergie du groupe.
Ouais, ok. Bah, on le voit dans ce nouveau groupe, enfin ce groupe, on va dire pas nouveau, mais en tout cas rajeuni, dans lequel tu es capitaine. Il y a une super ambiance. Du coup, j'avais préparé une petite rubrique. Ouais. C'est la minute du capitaine pour savoir si tu connais bien ton équipe. Or, tu m'as demandé si on pouvait citer les plus anciens.
Moi, mais... j'ai la chance d'avoir vécu avec la génération d'avant.
Ouais.
Et je suis un peu entre les deux générations. Moi, je suis beaucoup plus jeune que les Bousquet, Bernard, Gillot, Lacour, Agnel, etc. Ah, non, Agnel est plus jeune que moi, mais par contre je suis aussi beaucoup plus vieux que Léon Marchand, que Johan Ndoye-Brouard, que Marie Vatel, etc.
Il y a un entre-deux de générations qui marche bien.
Exactement.
La toute première, c'est qui est-ce qui oublie son bonnet de bain le jour de la compète?
Je dirais Camille Lacour, parce qu'il oublie toujours toutes ses affaires. Voilà, il a jamais oublié son bonnet, je pense, mais quand on partait en stage, il oubliait une veste, il oubliait une brosse à dents, il oubliait, j'en sais rien. Il était tout le temps, je pense qu'il faisait pas son sac correctement et il était très tête en l'air. Il l'est toujours d'ailleurs, je pense. Et je dirais Camille là-dessus, qu'il oubliait pas mal de choses.
Ok, ça marche. À qui est-ce que tu prêterais pas ta voiture?
Je vais prendre un ancien encore, Fred Bousquet.
Est-ce qu'il a pas fait un créneau?
Non, il a perdu son permis il y a pas longtemps. Donc, il conduit très bien.
Ok.
Et oui, je lui prêterai ma voiture évidemment, mais il a perdu son permis parce qu'il roulait un petit peu trop vite entre Marseille et Nice très longtemps. Donc,
Bon bah écoute, voilà. on dira rien. On
Après, il a appelé. Oui, est-ce que tu peux venir chercher la voiture qui est sur l'aire d'autoroute de je sais pas quoi? Tu vois, ça me prend du temps, donc j'ai pas envie.
Petite revanche. Qui est-ce que tu prendrais pour organiser ta prochaine soirée d'anniversaire?
Je pense que je prendrais deux jeunes et deux anciens, comme ça je ferais un bon mix.
Carrément 4 personnes pour organiser la teuf.
Ah ouais, c'est important les soirées. Donc je prendrais Johan Ndoye Brouard, jeune, et Emma Terrebo, j'aime bien faire la fête. Et je prendrai aussi Fred Bousquet, avec qui je suis très proche, et Greg Mallet.
Ok.
Deux nageurs qui je suis très proche et qui je m'entends très bien, ça ferait un bon mix.
Ça marche. Bon, je me les note pour la prochaine soirée qu'on fait dans le coin. Selon toi, lequel avait les meilleures notes à l'école? Le Fayot. Au premier rang, tu lèves la main.
Ah ouais, c'est deux questions différentes. Meilleure note et Fayot, c'est deux choses différentes.
Vas-y.
Hein. Non, je pense que celui qui avait de très bonnes notes, je vais pas prendre dans les anciens, je vais prendre dans les nouveaux.
Tu les connais trop, les anciens.
Qui aurait pu avoir une très bonne note? Je pense que Léon Marchand était très bon, et très bon à l'école, parce qu'il est toujours. Je pense qu'il est très bon à l'école. Ouais.
Il est un peu golden boy, un peu petit garçon parfait.
Ouais, ouais. Je pense qu'il est, c'est quelqu'un de très bon à l'école, qui écoute, etc. Je pense pas Fayot, mais je pense qu'il a, des facilités à l'école.
Ok, le plus Fayot du coup. Celui qui vendrait son âme, sa mère et sa sœur pour paraître bien devant les profs.
J'en connais pas beaucoup des comme ça. Franchement. Non, franchement, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui est Fayot comme ça, là.
Même tu as raison, tu dénonces personne.
Non, non, vraiment.
Le capitaine ne doit.
Vraiment. vraiment, je vois pas de personne qui serait très comme ça. Je pense que ces gens-là ne feraient pas de sport, en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas la même énergie. Quand t'es dans le sport, faut que tu réfléchisses plus, t'es pas en train d'écouter, à lever ta main, à dire des choses comme ça. J'ai l'impression, après je peux me tromper.
Ok. Dans les questions qui piquent un peu, il y a lequel ou laquelle a le plus de mal à suivre son régime alimentaire?
Johan Ndoye-Brouard. Faudrait que je dise des filles un petit peu, mais sur cette question, faut pas dire des filles parce que c'est des amis, tu vois.
Allumer.
Donc Johan, qui est, on lui dit toujours qu'il est un petit peu gros, mais ça fonctionne, donc qu'il reste comme ça.
Ouais. Effectivement, c'est la question. Si tu balances une fille, ça peut être mal pris. Qui est-ce qui fait pas de prépa mentale mais qui devrait essayer?
c'est pas négatif parce que je pense que les jeunes.
Ouais, ça doit venir quand on a envie aussi, tu vois.
Ouais. Je pense que des jeunes, je pense que les jeunes en général devraient faire plus de prépa mentale pour passer un cap.
Ouais.
Donc les jeunes qui peut y avoir qui, je pense que Mathéo par exemple, bon, il est pas en équipe de France, mais il est en équipe de France jeune. Je pense qu'il faudrait qu'il en fasse un petit peu. Il a commencé, mais c'est des choses qui peuvent te faire passer un cap quand même. Ouais. Donc je dirais Mathéo et je dirais je sais pas. J'ai peur de me faire des ennemis en fait. Tu vois.
Mais il t'adore tous.
Je sais aussi que les garçons ils prennent les choses un peu moins mal que les filles. Donc sur des questions comme ça, c'est un peu plus facile de dire des garçons.
Ok, ben il y a une question pour les filles. Laquelle t'accompagnerait pour une journée shopping?
Je vais prendre ma co-capitaine Mélanie Hennick, qui me connaît très bien aussi, avec qui j'ai partagé des équipes de France jeunes en junior depuis 2008,
okay.
Et qui est maintenant capitaine d'équipe de France avec moi. Et j'ai nagé avec elle à Marseille aussi, donc je prends quelqu'un qui me connaît très bien. Je vais dire Mel.
Ok. Et la petite dernière question, c'est qui le roi ou la reine du dance floor dès qu'il est passé minuit?
J'ai quelqu'un en tête, mais c'est pas un nageur, c'est un membre du staff.
Il se reconnaîtra apparemment.
Ouais. Il a été très bon à la soirée à Budapest 2022. Reine du dance floor. Je sais pas, Charlotte Bonnet.
Charlotte Bonnet.
Un peu alcoolisée. Évidemment, parce que c'est toujours plus facile.
On peut se lâcher.
C'est toujours plus facile. Et puis, en plus, maintenant, elle s'entraîne avec Philippe Lucas, donc il faut qu'elle se lâche un petit peu de temps en temps, ouais. Après les entraînements très très compliqués de Philippe.
je veux bien le croire. Ouais. Mais t'as jamais eu envie, toi, d'ailleurs, de nager un petit peu avec lui?
Non, enfin oui, je l'ai fait quand j'étais jeune, quand ma sœur était là-bas. J'ai fait des stages d'une semaine, mais c'est une méthode de travail qui me correspondait peut-être pas trop déjà quand j'étais jeune, ouais. Parce que je suis sprinter, vraiment ultra sprinter. Mais maintenant, c'est sûr que ça me correspond pas du tout parce qu'il fait nager beaucoup et un sprinter a besoin d'être frais nerveusement et de nager beaucoup, ça t'enlève ce côté ouais. Frais quoi. Donc moi, j'ai besoin de pousser lourd en muscu et quand tu nages même 12 ou 14 kilomètres par jour, même s'il nage plus. 12-14 par jour, je suis plus capable après.
C'est énorme.
Ouais, ma sœur en faisait 18, tu vois, entre 16 et 18 par jour. Je serais pas capable d'être frais pour la muscu, d'être frais pour faire des sprints vraiment très précis, tu vois. Donc non, c'est un super coach, un humain extraordinaire aussi que j'adore. Hein.
Ouais, bien sûr.
Je m'entends super bien avec Philippe, mais je pourrais peut-être pas travailler avec lui, surtout pas à 32 ans, pas à 50.
Je peux comprendre que ça peut taper sur le système et je peux comprendre aussi que y a besoin de se lâcher un peu après une petite semaine avec Philippe.
Ouais, il faut
relâcher la pression quoi.
Ouais.
Donc j'irai chercher les stars du dance floor dans son groupe. Ouais. Mais j'avais demandé à Aurélie Muller hein, combien elle nageait avec lui. Et...
Beaucoup
trop quoi.
Avec Aurélie, on n'a pas fait le même sport. Hein.
Ah ouais, clairement.
Je suis beaucoup plus proche d'un Jimmy Vico.
Ouais.
Que d'une Aurélie Muller, hein. Même si je fais le même sport qu'Aurélie, mes entraînements ressemblent beaucoup plus à ceux de Jimmy qu'Aurélie, hein, c'est sûr.
Clairement. Ouais. Ok. Je voulais passer un petit peu en revue ce que tu fais en dehors du sport, parce que je sais que tu fais un milliard de choses.
Ouais, j'aime bien.
Quel âge t'as commencé la gratte, la guitare?
À 24 ans.
Ah ouais, t'as commencé vachement tard en fait.
En fait, okay. Mon père me jouait de la guitare quand j'étais petit.
Ouais.
Enfin, nous jouions de la guitare avec mon frère et ma sœur. Et j'ai mon coloc de l'époque, qui est mon meilleur pote aussi, qui habite en Australie maintenant, qui a commencé à jouer en 2014, je crois, un truc comme ça. Et puis petit à petit, je vais jouer aussi parce que j'aime bien, j'aime beaucoup la musique. En fait, c'est juste un des caps à passer. Le début, c'est super dur, t'as mal aux doigts. Peu importe l'instrument que tu fais.
Surtout t'as des gros doigts, non?
J'ai des gros doigts, mais j'ai aussi des longs doigts. Donc j'ai des gros doigts, mais aussi des longs. Donc si tu veux, tu gagnes.
Ouais.
Pour faire des barrés, c'est plus facile, mais c'est sûr que des fois t'accroches deux cordes. Mais j'estime en fait que la musique, c'est comme le sport, faut être très très concentré. Et moi, ça me permettait justement de m'enlever ce côté sport de la tête, parce que quand je fais quelque chose, je le fais à 100% et j'oublie tout ce qu'il y a autour. Donc quand je me mets dans quelque chose, je le fais, et je jouais 4 heures par jour pendant 3-4 mois, j'ai fait ça. Et au bout d'un mois, je commençais à vraiment jouer des morceaux qui me plaisaient. Et ensuite, voilà, j'ai continué pendant 3 ans, 4 ans. Là, je joue un petit peu moins. Faut que je m'y remette. Je me suis acheté j'ai eu une guitare électrique en cadeau de mon beau-frère, qui est chanteur.
T'as eu quoi?
J'ai une guitare électrique.
Ouais, mais laquelle?
C'est une Fender, je crois.
Ah, une Fender.
Okay. Ouais, elle est pas mal. Donc, je me suis acheté un ampli là à Noël, et faut que je m'y mette. Donc c'est encore autre chose, mais je passe aussi beaucoup plus de temps maintenant à récupérer. Donc même si c'est pas du sport, la musique, ça demande quand même une concentration et ça te fatigue mentalement d'apprendre des choses tout le temps. Donc je fais attention à ça.
Ouais. Et puis le truc cool, je trouve, par contre, dans la musique, c'est que tu peux garder et entretenir en 5-10 minutes par jour, tu vois.
Ouais.
Si juste en jouant 5-10 minutes, tu peux te faire 2-3 gammes, 2-3 trucs, et ça te fait un peu cette espèce de tâche méditative, tu vois, où t'es un peu dans ton flow et tu bosses un peu ta conversation.
Je pense que oui, mais par contre, je pense que quand t'es à un très haut niveau, tu peux pas.
Ouais.
Tu vois, un musicien, il faut qu'il bosse plus que 5-10 minutes par jour. Mais quand t'as un niveau, je pense que c'est comme quand tu fais du sport. Si tu fais 30 minutes par jour de sport, c'est déjà bien, tu vois. Il y a déjà plein de gens qui en font pas. Mais par contre, moi, si je fais 30 minutes, je serais pas bon. Tu vois, ça dépend, je pense, du niveau que t'as. Mais si tu veux entretenir si t'as déjà beaucoup joué de guitare et que tu veux entretenir un petit peu tout ça, tu joues un petit quart d'heure par jour.
Au moins, t'entretiens bien, je pense.
Ouais, t'entretiens super bien. Ouais. Faudrait que je le fasse.
T'arrives à jouer 3 ou 4 heures d'affilée à la guitare? Moi, déjà, au bout d'une heure, mais je suis rincé, quoi, psychologiquement.
Ouais, je le faisais, ouais. Mais parce que j'avais vraiment très, très envie d'apprendre aussi. Donc, ça passe avant, en fait. Je me dis, j'ai très envie d'apprendre. Je veux avoir ce résultat. Pour avoir ce résultat, il faut que je joue 3 heures par jour, 4 heures par jour.
Okay.
Donc, j'ai fait ça.
Mais c'est ce que je voulais te demander, parce que tu vois, j'ai vu qu'il y avait un télescope, donc on va parler un petit peu astro juste après. Mais... Vas-y. C'est ton mood un peu pour apprendre là, où pendant 3-4 mois tu te mets à fond dans un truc, t'oublies un peu le reste et puis après t'entretiens petit à petit, ou...
Ouais, en fait j'ai mes périodes, c'est-à-dire que d'un coup j'ai l'impression que ça devient toute ma vie. D'un coup j'ai l'impression que je suis musicien, j'ai l'impression que je suis astronome, j'ai l'impression que je suis joueur de fléchettes ou barista, parce que une de mes dernières lubies c'est de faire du milk art sur les cafés. Donc voilà, et par exemple l'astro, pendant le confinement, donc j'habitais à Marseille, j'avais un balcon, une terrasse même, et j'avais un super ciel, et en plus il y avait un peu moins de pollution, tu vois, donc c'était un petit peu plus facile, et je me suis acheté un télescope, un premier. Je suis arrivé aux limites de ce que je pouvais faire, donc je m'en suis acheté un deuxième un peu plus cher, mais auquel je pouvais faire un peu plus de trucs. Et ça a duré tout le confinement, et maintenant je l'utilise beaucoup moins. Depuis que je suis en type, j'ai sorti 2 fois.
Ouais.
Ça fait 1 an et demi, mais par contre à Marseille,
t'as plus de
beaucoup
pollution
plus
lumineuse, non, ici, ou...
Non, je pense moins.
Moins, ouais.
En fait, ça dépend. Là, je suis en bord de mer, donc ça va. Si tu regardes des étoiles ou des constellations qui sont au-dessus de la mer, t'as pas de pollution lumineuse, ou moins. Mais par contre, c'est sûr que si tu vas dans les montagnes, dans les Alpes, là, c'est trop bien parce que tu vois beaucoup mieux. Ouais. Mais quand mon père par exemple était venu à Marseille, c'est génial de voir dans ses yeux qu'il peut voir les anneaux de Saturne, ou de personne a vu ça, tu vois, à part en photo.
Ouais, bien
quand
sûr.
Tu les vois de tes propres yeux, et moi je suis trop content de pouvoir lui montrer ça. J'ai un télescope qui suit les planètes. C'est quand même du taf, tu vois, faut le mettre en station, il faut connaître beaucoup de choses, où le pointer d'abord pour qu'après ça soit sur l'axe de rotation de la Terre. Enfin, vraiment, je regarde des milliers d'heures de vidéos YouTube pour vraiment connaître mon sujet. Mais par contre, quand j'ai un pote ou un couple d'amis qui vient avec un enfant de, j'en sais rien, moi, 5 ans, 10 ans, je lui montre la Lune.
Ça le régale.
C'est trop bien, tu vois. Je fais plaisir aux gens. Et moi, c'est bon, ça, je me suis fait plaisir, j'ai vu ce que je voulais voir, entre guillemets, j'ai appris quelque chose, parce que moi, c'est ça, d'apprendre quelque chose qui me fait plaisir. Et quand je vois des étoiles dans les yeux des jeunes, ou même de mon père qui voit ça pour la première fois, c'est trop cool.
Ok. Ouais, donc ton plaisir, c'est plus la phase d'apprentissage et le process.
Une fois que j'ai appris,
arriver, et puis...
je me dis, par exemple, dans la guitare, j'ai envie de jouer Stairway to Heaven. C'est un exemple. C'est une musique qui est compliquée à jouer. Une fois que j'arrive là, bah c'est bon. Okay. Maintenant, faut que je fasse autre chose. J'ai atteint mon objectif. Je voulais voir, j'en sais rien, Saturne, tac, voilà. Là, pour l'instant, j'arrive pas à faire ce que je veux en Milk Art sur mes cappuccinos. Du coup, le jour où je vais arriver à faire exactement ce que je veux, voilà, je saurais faire, je le ferai. Je t'en ai fait un ce matin, par exemple.
Très réussi.
Oui. Donc, une fois que je veux pas faire les championnats du monde de barista, tu vois, mais je veux savoir faire un petit peu. Et je sais pas ce que sera la prochaine chose dans laquelle je vais me mettre, mais il y aura forcément quelque chose.
Mais tu vois, j'allais te poser la question de l'après-carrière, tu vois, est-ce que ça va être plutôt dans la musique, est-ce que ça va être plutôt dans les motos, bécanes, là j'apprends le 1000 cartes et l'astro, tu vois.
Oui, parce que je fais aussi de la moto sur circuit, un peu de tout.
On en parlera après, mais en fait, tu sais même pas quoi.
Je sais pas.
Après.
Demain, je peux me réveiller.
Je suis pas inquiet pour toi, du coup.
Non, mais oui. Demain, alors il me faut quand même. Il me faut quand même un boulot où quand même il faut que je mange, tu vois, que je gagne un peu d'argent, mais je peux passer du tout au tout. Demain je peux me lever voir un reportage. En fait, ça marche aussi avec les programmes télé, c'est-à-dire que j'ai plus ce que j'ai regardé, je suis tombé sur un docu et du coup j'ai téléchargé sur Netflix une série sur l'Empire romain, et du coup ça m'a intéressé grave, donc j'ai regardé des documentaires pendant des jours et des jours là-dessus, et ça m'a grave intéressé. Et après ça va passer à l'Égypte, après ça va passer à l'astro, et j'ai vraiment des périodes comme ça. Et demain ce soir je peux tomber sur un docu qui me plaît, un sujet qui me plaît, et ben je vais vraiment l'approfondir, tu vois. Je pense que je suis assez cultivé parce que justement je vais au fond des choses. Je vais pas regarder 10 minutes d'un truc et me dire ouais, bon c'est bien. Si je veux savoir un truc, par contre je vais creuser. Je vais vraiment être intéressé par ça.
Ok. Ouais, mais c'est intéressant. Non mais moi je suis un peu comme toi. Tu vois, j'ai mes petites lubies. Tu vois, j'ai eu les cryptos. Tu vois, Je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Neurosciences aussi. J'ai eu ma phase où je lisais tous les bouquins sur comment ils fonctionnent notre putain de cerveau. L'astro, j'ai pas eu. Tu vois, mais je voulais te demander, est-ce que tu crois du coup à toutes les théories, notamment d'Elon Musk. Tu vois, comme quoi on peut être on a une infinité de possibilités et que là on est juste une image reproduite de ce qui se passe à un autre endroit, tu vois. Est-ce que tu t'es intéressé à toutes ces théories? Je sais qu'il y a Alexandre Astier aussi qui est hyper calé en astrologie. D'ailleurs, qui a fait une super tu l'as vu sa vidéo ou sa conférence?
Non, je pense pas.
Franchement, regarde là, elle est chambée. Et lui, il est trop trop calé sur le sujet, quoi. Donc il y a des grandes théories auxquelles tu crois, tu vois, les découvrir un peu dans l'astronomie.
Je suis persuadé qu'il y a de la vie ailleurs, ça c'est sûr. Je pense que l'humain n'est pas capable, on sait même pas jusqu'où va l'univers, tu vois. Donc évidemment, et j'ai regardé un docu que Greg Mallet m'a envoyé, parce qu'on discute beaucoup de ça avec Greg. Et il y avait une métaphore, j'aime beaucoup les métaphores parce que c'est très facile à comprendre. Il disait c'est comme en fait dire qu'il y a pas de vie ailleurs, c'est comme plonger un verre dans l'eau. Dans la mer,
ouais.
Et dire qu'il n'y a pas de poisson dans le verre. Ouais. Et du coup, qu'il n'y a pas de poisson dans la mer. S'il n'y a pas de poisson dans le verre, il n'y a pas de poisson dans la mer. En fait, le verre, c'est ce qu'on est capable de nous observer. Oui. Aller, tu vois, Lune, Mars, j'en sais rien. Et la mer, c'est l'univers. Ouais. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de poisson dans le verre qu'il n'y a pas de poisson dans la mer. Donc, évidemment qu'il y a de la vie. Mais en fait, les gens se disent la vie, c'est genre quelqu'un qui a deux bras, deux jambes, un extraterrestre qui vient et qui vient conquérir la Terre.
C'est une bactérie déjà, tu vois.
La vie, déjà, si c'est une plante, c'est beau, tu vois. Si c'est un arbre, c'est incroyable. Donc la vie, pour moi, c'est ça.
Ça peut être un rocher qui bouge, tu vois. Ça peut être
tellement de choses.
Ouais.
J'ai un petit peu du mal à comprendre. J'ai regardé beaucoup de choses sur l'espace-temps. Tu vois, nous, le temps, c'est quelque chose, on a l'impression qu'il est hyper précis. Mais le temps, si tu vas, c'est assez bien expliqué dans Interstellar.
Ouais.
Quand ils approchent les trous noirs, etc., le temps ralentit ou accélère. Et on a l'impression que c'est de la fantaisie, mais ça existe vraiment. C'est-à-dire que si jamais tu mets, je crois, Thomas Pesquet qui fait des tours dans l'ISS autour de la Terre, il va être, je sais pas, c'est plus jeune ou plus vieux, je crois que c'est plus jeune, de quelques millisecondes quand il va rentrer sur Terre, parce qu'il est pas loin.
C'est plus que quelques millisecondes, hein, je crois.
Peut-être.
C'est des minutes, hein, je crois.
Peut-être en minutes, mais ce qui est rien par rapport à 6 mois, tu vois.
Ah ouais, bien sûr.
Mais il y a des endroits dans la galaxie, certainement, quand tu t'approches des trous noirs ou des choses comme ça qu'on comprend pas encore. Il y a un passage dans Interstellar où ils vont sur une planète, ils disent au mec, tu restes dans le vaisseau spatial. Nous, on va 5 minutes là, ça te fera 5 heures toi. Au final, il reste, je sais plus, 5 heures. Bah lui, ça lui a fait 5 ans, tu vois. Et c'est un truc complètement barjo. Et ça, j'y crois parce que ça a été vérifié, tu vois. Mais c'est très dur, je trouve, pour l'être humain à comprendre. Ouais. Parce que nous, bah, une heure, c'est une heure. Une minute, c'est une minute. On vit 100 ans, 80 ans. Et pour nous, on a ce truc-là où l'infini, c'est aussi très dur à comprendre parce que, tu vois, bah t'as ton téléphone, il fait, j'en sais rien, 12 centimètres. Moi, je fais du 50 mètres en natation. Le tour de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Distance lune Terre, je sais pas, c'est 300 000, je crois. Ouais. T'as toujours une valeur, tu vois. Il y a quelque chose. Ça commence, ça s'arrête.
On a besoin de mesurer les choses.
On a besoin d'avoir un début, une fin. Et je crois que notre cerveau, il comprend pas encore le fait d'avoir un truc infini. Ça n'existe pas pour nous. Y a rien qu'on connaît qui est infini, à part l'univers, tu vois. Je suppose, et encore, on ne sait pas si c'est infini.
Ouais, et puis même.
Donc c'est des sujets hyper intéressants, quoi.
Peut-être juste le temps est infini aussi, tu vois.
Bah le temps,
on peut pas l'arrêter, le temps, tu vois.
Non, le temps, tu peux pas l'arrêter.
Enfin, dans notre conception, quoi.
Là, le temps qu'on a passé, on pourra jamais revenir en arrière. On pourra. Enfin, il y a tellement de choses que après, tu peux délirer sur plein de choses. Mais c'est très intéressant comme sujet. Ouais.
Ah, moi, j'aime bien délirer aussi un peu sur ce type de sujet. Mais t'as déjà rencontré Thomas Pesquet?
Non, malheureusement, je crois que c'est un mec avec qui j'aimerais beaucoup discuter. Ouais.
Si t'avais les 500 000 dollars là filés à Elon Musk ou à Jeff Bezos pour aller dans l'espace, tu signes, je pense.
Je voulais être astronaute quand j'étais petit.
Ok.
Mais en fait, j'ai envie. si je suis sûr de revenir en vie, ouais. En fait.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En fait, forcément, t'es sportif de haut niveau, t'as une super condition physique.
Ouais, mais
tu fais 2-3 tests normalement pour voir.
Je trouve que c'est très tôt encore, tu vois. Donc être parmi les premiers à partir dans l'espace, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit risque, mais si c'est sûr, ouais, j'irai grave.
Ok.
J'irai grave. Tu sais qu'il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate sur Terre.
Ouais, bien sûr, il y en a plein. Ouais.
Incroyable quand même. Enfin.
Il y a un super docu sur Netflix d'ailleurs.
Ouais, c'est un truc de ouf. Hein.
Mais qui est assez drôle, c'est autodérisoire. Il y a des groupes Facebook, mais sur lesquels je vous déconseille de trop aller.
La théorie du complot, on en connaît hein, sur beaucoup, beaucoup de sujets.
Ouais. Mais généralement, les gens très curieux, ils aiment bien les théories du complot. Pour comprendre aussi, tu vois, l'autre versant.
Je pense qu'il faut... Ouais, il faut...
Et moi, je kiffe. Je
pense qu'il faut vraiment écouter tout le monde pour pouvoir se faire sa propre idée.
Bien sûr.
Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui ont pas beaucoup approfondi un sujet et qui pensent avoir raison. Moi, ça j'aime pas trop ça. Je sais plus qui disait ça, mais il disait qu'un, tu vas prendre un sujet et donc tu mets connaissance par rapport à confiance en soi, tu vois, face à face. Et en fait, la confiance en soi baisse par rapport au nombre de connaissances. C'est-à-dire qu'un mec qui commence à lire, par exemple, un livre sur l'astro. Il va lire un livre, il va croire qu'il a tout compris.
Ouais, exactement.
Donc il a très confiance en lui. Il va en lire 20.
Et là.
Et ben, les 20, ils vont dire, t'as un mec qui va dire A, l'autre B, l'autre AB, l'autre Z, tu vois. Ouais. Et tu vas dire, ben, en fait, non, c'est beaucoup plus relatif que ça. Et dans tous les sujets, c'est pareil. Si tu regardes, et c'est pour ça, je pense que j'approfondis beaucoup tout parce que regarder une demi-heure d'astronomie, je vais pas comprendre. Je vais pas comprendre les choses. Et encore, je me suis pas bouffé des milliers d'heures, tu vois. Je suis à ma petite échelle, je comprends un petit peu plus peut-être que les gens qui regardent juste une heure. Mais il faut approfondir un sujet. Il faut, c'est pas en lisant un livre de développement personnel que tu vas comprendre comment fonctionne le cerveau humain, tu vois. Ce serait beaucoup trop facile.
J'ai fait une heure de PNL, je sais pas.
Ouais, c'est comme si je te dis, tu vas nager cette semaine et après tu vas au jeu, tu vas être champion olympique. C'est pas possible. Donc, mais les gens pensent qu'en approfondissant un tout petit peu la chose, ils comprennent beaucoup. C'est pour ça que c'est des courbes qui se croisent, en fait, la confiance en soi et le, quand tu parles d'un sujet, la confiance en soi et la vraie culture que t'as du sujet.
Ouais. Ouais, mais exactement. Je sais plus comment ça s'appelle, cette courbe, tu vois.
Je sais plus, mais tu connais.
Ouais, ouais, je vois très, très bien. Très bien. Et puis, c'est un autre, tu vois, moi, j'ai un peu du monde de l'entrepreneuriat et justement de la création d'entreprise et tout. Startup Nation est un autre concept, c'est en gros les quatre étapes, si tu veux, de la confiance. C'est je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas que je sais, et ensuite je sais que je sais. Et une fois que tu sais que tu sais,
c'est là que t'es,
c'est soit t'es l'expert total, soit au contraire tu te craches complètement parce que excès de confiance et t'as pas du tout bien fait chacune des étapes, tu vois. Mm. On parle beaucoup de ça
c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant.
OK, bon bah écoute, on ravi d'avoir eu ta petite connaissance sur le sur le milieu.
Je check mon téléphone parce que je me suis commandé un petit bagel, tu vois. Enfin,
vas-y.
Qui arrive dans 4 minutes.
Vas-y, 4 minutes. Il y a pas de souci, on pourra faire une petite pause manger ou même manger pendant le truc. Qu'est-ce que je voulais te demander? J'ai quoi dans ma petite liste qu'on a fait? On a parlé un petit peu de gratte et tout. Est-ce que j'ai une petite session. C'est si j'appelle ton meilleur pote, que j'appelle, je le fais avec tous les athlètes. Je leur dis si j'appelle ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il me dirait là-dessus? Et la petite question que j'ai, enfin qui revient souvent, c'est si j'appelle ton meilleur pote, ça serait quoi ta plus grosse qualité en amitié?
J'essaie de réfléchir à sa place, mais parce qu'en ce moment, en fait, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que mon meilleur pote, il habite en Australie. Je lui ai écrit hier et je lui dis, je t'appelle vite. Il me dit, c'est quoi vite pour toi la semaine prochaine? Tu vois. Donc c'est pas du coup tout le contact, mais on a 9 heures d'écart. Du coup, quand lui, par exemple, c'est le soir là-bas, lui peut m'appeler. Il a fini sa journée, tout ça. Il va m'appeler. Moi, il est 11 heures, tu vois. Là, qu'est-ce que je fais à 11h? On fait un podcast. Donc, tu vois, j'ai dans ma journée, j'ai pas le temps. Donc, il dirait certainement pas la communication, tu vois. Mais je dirais la présence quand même, tu vois, parce que quand je vais le voir ou quand il vient, on est vraiment ensemble, tu vois. Et c'est une amitié qui est hyper forte. Donc, ouais, la présence quand on est ensemble, tu vois. Quand je vais le voir une semaine que je suis avec lui, je suis vraiment avec lui. Ouais, ouais. Je suis pas avec les autres.
Tout coupé.
Ouais.
C'est rare, tu vois, l'attention.
Ouais, ouais.
De nos jours, tu vois, des gens qui sont vraiment là, vraiment présents et tout.
On s'écoute quand on parle, tu vois. Okay. Et c'est cool d'avoir cette relation là et on est très on se fait confiance beaucoup l'un l'autre, tu vois, et quand je lui pose des questions sur ma vie ou sur un sujet, j'écoute vraiment ce qu'il va me dire. Ça va pas être ouais, d'accord, ok, tu vois. Non, j'écoute vraiment, on a des vraies discussions, ça c'est cool.
Ok. Si je lui demande ton plus gros défaut?
En ce moment, je dirais la communication, parce que c'est compliqué avec la vie que j'ai et la vie qu'il a et le décalage horaire de 9h jusqu'en Australie.
Ouais, mais ça peut se comprendre.
Ouais. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que vu qu'on se parle pas beaucoup au téléphone parce qu'on galère, quand on se parle 2 heures. Donc, si tu veux, là, s'il m'appelle à 11h, je sais que j'en ai pour 2 heures. Enfin, après, à 2 heures, j'abuse, mais 1 heure.
Oui.
Donc, du coup, c'est pas un pote qui t'appelle, ouais, comment tu vas, 5 minutes, tu vois, j'ai appelé un pote devant toi tout à l'heure, machin. Check-up. Je le vois ce soir, je le vois demain soir. C'est qu'est-ce que tu fais, dis-moi où t'en es dans l'entraînement, c'est un ancien nageur, c'est un coach aussi. Donc, ça prend du temps, en fait. C'est limite, il faudrait que je prenne un rendez-vous Zoom meeting avec lui, tu vois, pour faire 2 fois par semaine un check-up de tout, mais.
Moi, j'en suis là avec mes meilleurs potes, hein.
Mais il faut, parce que quand tu travailles, tu travailles.
L'agenda et tout, bah, je suis obligé, moi. Moi, j'ai mes clients, mes employés et tout.
Donc, tu peux pas avoir un mec qui t'appelle à 11h comme ça et qui te dit bah maintenant j'ai envie de passer 1 heure au téléphone avec toi. Bah t'as pas le temps, tu travailles.
Ah ouais. Mais tu vois, moi j'ai 3-4 mais on va dire vraiment très très bons potes. J'en ai 2 qui sont pareil, des férus de boulot comme moi, et 2 qui sont pas du tout dans ce monde-là, qui ont été anciens sportifs, qui ont jamais touché le haut niveau, mais tu vois, qui aujourd'hui sont plus pépères, tu vois, vadrouillés un peu à droite à gauche. Et quand j'en vois tu vois, le rendez-vous Zoom, tu vois, au gros bosseur, c'est genre, ouais, pas de problème, tu vois, avec les autres, c'est, ah bon, on en est là, quoi, carrément, dans notre amitié. Je dis, ouais, mais désolé, c'est juste, au contraire, moi, j'accorde de l'importance à toi, je vais bloquer du temps pour toi dans mon agenda, quoi.
Ouais, mais les gens réfléchissent pas tous de la même manière, tu vois.
Clairement, donc, clairement.
Mais c'est marrant, ouais. Moi, ma copine fait ça avec ses copines aussi. Elle. Mais le problème de ça, c'est que...
Ça, c'est le côté un peu nordiste. Non,
je les Français, on fait pas trop ça. Mais après, c'est... Tu vois, elle prévoit aussi des dîners avec ses potes, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que pour moi, prévoir à l'avance, je suis aussi beaucoup dans le feeling. C'est-à-dire que là, je me dis, par exemple, ce soir, je me dis, semaine prochaine, mercredi prochain, je ferai bien un repas avec mes potes. Puis j'arrive mercredi, en fait, j'ai pas du tout envie. Je suis fatigué. Je sais pas ce que j'aurais fait avant. Donc c'est vraiment c'est un peu antagoniste parce que ce soir peut-être que je vais être en forme, dire putain, je me ferais bien une fléchette avec mes potes. Ouais. Et je vais les appeler et on est tous comme ça, donc du coup on va se voir. Donc c'est un peu antagoniste, tu vois, des fois t'as du temps mais des fois t'en as pas, il faut que les gens aient pas trop de vie de famille parce que du coup ou que ce soit des couples assez open là-dessus, ouais, vas-y, va t'amuser avec tes potes, reviens à 23h, c'est pas grave, tu vois, mais ça dépend des gens.
Ouais. Non mais je te comprends mille fois, moi aussi des fois je me dis on se laisse plus, tu vois, la liberté de vivre un peu l'instant présent, tu vois, et de s'écouter, de se dire bah tiens, ce soir j'ai envie de ça, quoi.
Ouais.
Mais très cool. Si je lui demande ta plus grosse connerie au collège, qu'est-ce qu'il me dirait?
On était pas au collège ensemble, parce qu'on s'est connus après, mais
ou la plus grosse connerie que vous avez fait ensemble?
J'en ai fait beaucoup. Si je vais dire celle-là, c'est pas une grosse connerie, mais c'est drôle. On était coloc pendant 3 ans, et en fait, on habitait. C'est pas bien ce qu'on a fait. On habitait bord de mer, sur la corniche, et du coup, de l'autre côté de la route. Donc, on habitait. Donc, t'avais la corniche, la route, et chez nous. Et t'avais une rambarde, logique, tu vois, pour pas se taler la mer après. Et donc on avait entre la fenêtre de l'appart, on était au premier étage, et la rambarde, je dirais que t'avais entre 10 et 15 mètres.
Ok.
Et un jour, je sais pas, on avait des œufs qui étaient pourris, tu vois, ils étaient plus bons. Donc on s'est dit, on va jeter un œuf, tu vois, drôle, tu vois, on avait 20 ans, 22 ans. Et puis après, on se challenge tout le temps, on est là, ah, vas-y, viens, on essaie de toucher la rambarde, genre pile, tu vois, c'est... Mais pas la rambarde, le truc comme ça, le dessus de la rambarde, tu vois. Ouais. Là où tu mets ta main.
Ouais, ouais.
Puis c'est parti, quoi. Machin, tu lances une fois, deux fois, et tu le touches, et tu le touches. Ça, c'est comme quand tu fais avec tes potes, tu mets une poubelle et tu lances un papier dedans. Et au final, quand tu le mets, t'as l'impression que t'es champion du monde. C'est incroyable. Et puis, on a fait jouer tout le monde, tous les gens, parce que c'était un peu la maison du bonheur. Tous mes potes viennent à la maison quand ils veulent. Et notamment Fred Bousquet qui était venu, il était là, oh non mais c'est nul comme jeu, en plus on gaspille de la nourriture et tout. Il en a lancé un, il était là, il voulait plus s'arrêter, vas-y, donne-moi un autre, parce qu'au moment où tu touches, et après t'es content, tu vois, donc c'est pas bien parce que tu gaspilles de la nourriture, mais c'est une connerie, quoi, c'est une connerie de jeune.
Ouais, mais c'est
bien. Il y a pire, j'ai fait pire que ça, mais ça, c'est pas cool. C'est pas cool quand même.
Non, mais à la limite, c'est marrant, tu vois. Ok. Et dernière question, si je lui demande le truc qu'il faut absolument pas te faire pour perdre ta confiance. Tu dirais quoi?
Me perdre ma confiance en moi?
Ouais.
Donc, ou la confiance en la personne. Entre nous.
Ouais, en la personne.
C'est basique, mais je dirais mentir, tu vois. Mentir sur un sujet important.
C'est pas basique, hein. Il y a des gens pour qui le mensonge, c'est pas une valeur primordiale, hein.
Mais c'est pas. C'est...
Mais c'est un sujet proche de la confiance, ouais.
Ouais, mensonge.
Ah, je crois que le bagel est arrivé.
J'ai mon livreur.
Vas-y.
Allô?
Oui, bonjour, c'est le livreur.
J'arrive, je descends tout de suite.
Je suis en bas. Merci.
Tu le fais pas monter jusqu'ici?
Ils montent pas les livreurs ici.
Sérieux?
Non.
À Paris, moi, t'envoies les codes, t'envoies non, les codes, aussi, l'étage. Hein,
j'ai dit, c'est marqué, sonné à Manodou, 4e étage, gauche. S'en fout, ils montent pas, les mecs. Par contre, après, si jamais ils montent pas, moi, je dis qu'ils montent pas. Après, c'est leur problème, tu vois. Le problème, ça, c'est à cause du Covid. Le Covid, il montait plus, et du coup, maintenant, ils ont cru qu'il montait plus jamais, quoi. Mmh. Donc, à Paris, à Copenhague, notamment, les gens qui sont très carrés.
Tac, tac, tac. Ouais, bien sûr, mais je vais pas t'embêter longtemps. Tac, tac, je regarde. Bah, chaîne YouTube, du coup, on n'en parle pas. Si tu veux, on peut se faire encore 10 petites minutes, et puis, puis on est bon. Puis après, je te laisse tranquille.
Putain, j'ai vraiment entendu merde. Je vois pas, mais normalement, l'émission de la guitare et de G, des apps.
Ah ouais, carrément.
Je sais pas si ça va se découvrir, mais vraiment, tu vois les montagnes.
Genre bien, ouais.
Tu vois la mer.
Ah, c'est ouf quand même.
Il y a vraiment pas beaucoup d'endroits. Je crois qu'il y a Los Angeles.
Comme ça, et c'est tout.
Ouais, Los Angeles, tu peux aussi, ouais.
Mais il y a pas beaucoup.
Au Chili aussi, tu dois avoir des spots et tout, mais.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc, pour briser ma confiance, c'est ça la
partie,
question.
Ouais.
pour briser ma confiance, ouais, j'ai dit le mensonge, mais c'est genre me dire quelque chose à moi et dire quelque chose, ne pas être honnête avec moi plutôt. C'est-à-dire, ouais. Si j'ai quelque chose qui va pas dans ma vie, il va me dire blanc et un de mes potes, il va dire noir, tu vois. Un autre de mes potes, il va dire noir. Ça, je pense que c'est un truc qui me plairait pas. Ouais. J'aime bien quand on me dit, même ça peut blesser, me dire la vérité.
Ok.
Typiquement, si jamais je suis avec une gonzesse qu'il aime pas, tu vois, c'est un exemple, qui me dise ah non, c'est bon, je l'aime bien, et qu'au final, il la déteste, tu vois. Mm. C'est des trucs comme ça.
Ouais.
Ça a pas brisé ma confiance, mais je trouve ça un peu dommage, en fait. Tu vois.
Ouais.
Je trouve qu'une relation d'amitié, c'est plus fort que ça.
Ouais, ce côté dire des choses pour te faire plaisir. Quoi.
Ouais, voilà, ça, j'aime pas trop ça.
Ok. Ok. Je viens de trouver l'activité que tu feras en après-carrière.
Ah ouais?
Ouais, je te vois bien faire de la voile.
De la voile? Pourquoi de la voile?
Bah, parce que c'est hyper stimulant intellectuellement. Okay. Parce que t'as les éléments, tu dois capter comment fonctionne le vent, comment fonctionnent les courants, les marées et tout. Donc, il y a un truc vachement rationnel, un peu avec des données et tout, des petits jeux de calcul. T'as énormément de vocabulaire et de technique parce que c'est mécanique, tu vois, ça reste un sport où t'as une quinzaine de bouts à apprendre, t'as plein de matériel à apprendre, plein de techniques à apprendre, plein de vocabulaire à apprendre. Donc ça te stimule, quoi. Et en même temps, ça peut être carrément physique, quoi. Tu regardes les mecs sur la Copa América, les gars, ils se défoncent, quoi.
Je vais prendre la place de Quentin Delapierre, qui est le capitaine de... Le pilote, comme on dit, du CLGP, l'équipe de France.
Ok.
Tu bosses avec Thomas Samut, d'ailleurs, que je connais bien.
Ça, tu le connais?
Okay. Il est très très sympa et il marche bien cette année en plus, donc c'est cool. Ils sont 3 ou 4, je crois qu'ils ont pas fait des super résultats à Singapour là, mais ils étaient 3e après l'étape d'avant, donc.
Ok. Ouais, donc tu suis un peu la voile en fait.
Je suis le CLGP.
Ok.
Parce que c'est un peu de la Formule 1. C'est ouais. Sur Canal, tu vois, et ils te vendent ça super bien. C'est des manches qui durent entre 5 et 10 minutes. Et t'as, je crois, 3 manches le samedi, 4 le 2, 3 plus 3 et après la finale, ou 2 plus 3 et après la finale, quelque chose comme ça.
Ouais,
c'est hyper, hyper intense et c'est cool.
Ouais, ouais, moi aussi j'aime bien. Il y a un autre truc qui s'est lancé, c'est l'Ocean Race aussi.
Ouais.
C'est des formats un peu plus longs, mais pareil, il y a des courses un peu partout dans l'année. Et ouais. Les mecs, ils bourrinent là-dedans.
Ouais, et puis c'est bien, tu vois, parce que suivre le vent des globes, c'est très compliqué, tu vois.
Ouais.
Tu vois des petits trucs, des petits pictogrammes sur une carte, mais au final, tu n'as pas ce côté-là du sport que tu vois vraiment, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Même si j'ai eu la chance de parler à Olivier de Kersauzon.
Ouais.
Incroyable. Pareil, c'est des discussions avec des mecs comme ça. Ouh, c'est...
Ouais, ça te fait
grandir de ouf, quoi.
Ah, ouais. Bah, franchement, les marins que j'ai eu la chance de rencontrer là via le podcast, c'est à chaque fois tu prends une claque, quoi. Ah, franchement, ouais.
Ils vivent des trucs qu'on peut pas comprendre, je pense.
Mais c'est vrai que tu vois, à regarder et à suivre télévisuellement, c'est pas dingue parce que c'est difficile de créer de l'empathie, tu vois. Tu vois pas les gens, tu les vois pas œuvrer directement sur le bateau et t'as pas cette espèce de suspense, tu vois, où ça se joue à la seconde. Mmh. Mais l'histoire après est quand même, quand tu la racontes là, ça te scotche.
Il se passe plein de choses.
Ouais. Mais du coup, ouais, je te vois bien tester ça.
Peut-être. On verra bien. On verra bien.
Tu vas te lever demain matin, tu vas voir des voiliers là, tu vas te dire. Mais t'en as déjà fait déjà? T'es déjà monté sur un bateau?
Ouais, je suis monté sur le bateau de Quentin. Ouais.
Et t'as fait un peu œuvré là sur
Ouais, un petit peu.
Ok.
Ouais.
Non, c'est sympa.
J'ai eu la chance parce que une des meilleures potes de ma copine aussi, son mari est aussi pilote dans pareil, c'est le bateau danois. Et donc j'ai eu la chance d'être avec les deux bateaux, une fois au Danemark et une fois en France. Mais c'est des bateaux qui vont. Il a pas dépassé les 100, il a fait 99,9 km/h. T'as pas de bateaux qui vont à 100 km/h. Enfin, à part eux, c'est vraiment. C'est des Formule 1. Ils sont sur foil et quand ça tourne, en plus, ça te donne des jets de ouf. C'est vraiment comme une bagnole, quoi. C'est un truc de ouf.
Ouais.
Super intéressant.
Et bah tu l'as mentionné les voitures c'est un petit kiff depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est une passion qui dure quand même depuis un petit moment.
J'ai toujours aimé les voitures de sport.
Ça arrivait quand?
C'est arrivé, je pense, je partais en camping avec mes parents, avec mon frère et ma sœur, et bah à l'époque tu sais tu roulais beaucoup, donc t'avais pas d'iPad, pas de téléphone, tu regardais dehors. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur une autoroute? Bah, tu regardes les voitures. Et j'ai toujours beaucoup aimé les Porsche. Et la Porsche de mes rêves, c'était la 965 Turbo, 964 Turbo. Celle un peu de Bad Boys.
Ouais.
3.6.
C'est celle avec, peut-être pour que les gens visualisent, elle est un peu carrée. Ça fait partie des vieilles Porsche.
C'est la Porsche de Bad Boys.
Ouais.
Je pense que beaucoup de gens. Non, elle est noire, je crois.
Elle est noire, ok.
En Bad Boys. Et avec un gros aileron derrière, bien survitaminé. Et cette voiture est incroyable. Et je pense que je l'ai vue sur la route et j'ai toujours aimé les Porsche. Et donc, je me suis acheté une Porsche. Je me suis acheté cette Porsche quand j'ai gagné les Jeux en 2012. Donc, c'était pas la 3.6, c'était la 3.3.
Ok.
Et je me suis acheté ça à côté de chez mes parents.
Petit calibre.
Et là, maintenant,
Mais ça doit être dur à trouver, non? Je sais pas, à l'époque. Maintenant, je sais que ce genre de modèle, c'est
très cher.
Plus beaucoup sur le marché, déjà. Et
en fait, j'avais un magasin qui s'appelle GT Spirit. Il y a que des voitures de collection à côté de chez mes parents.
Ok.
Et donc j'y suis allé. Il y avait la chance qu'il y en avait une, tu vois. Et donc je l'ai prise et je me suis régalé avec. Et j'avais payé ça pour ceux qui aiment bien les voitures. J'avais payé ça 42 000 euros.
Ok. Et
ça vaut maintenant 3 fois plus, au moins.
Ouais.
Au moins.
Donc, ouais. Pourquoi tu l'as vendu?
Parce que ma copine de l'époque trouvait que c'était pas assez confortable et que ça sentait l'essence, il n'y avait pas la clim, tout ça. Donc,
ok.
Ça, des fois, pour les femmes, on fait des choses contraires à nos volontés pour faire plaisir et par amour. Donc, j'aurais dû la garder. Et après, écoute, c'est une voiture, tu vois, ça reste du matériel et c'est les relations humaines, c'est aussi très important quand t'es avec une fille. Ou un garçon, peu importe, ben t'as aussi envie de lui faire plaisir. Et si jamais c'est compliqué pour lui ou elle de remonter dans la voiture chaque jour, ben écoute, c'est comme ça. Faut un peu jongler entre
bien sûr.
T'es ce que tu veux toi en tant que personne et ce qui est bien pour le couple aussi. Ouais. Tu vois.
Le compromis.
Le compromis, on appelle ça. Ouais.
Non, mais c'est sûr que quand j'ai entendu copine de l'époque, j'ai dit, ah merde, ça fait chier.
Ouais, c'est comme ça.
Tu regrettes toujours un peu les trucs que tu fais pour d'autres, tu vois, ou les compromis que t'as fait pour quelqu'un d'autre.
Ouais,
après
ouais,
coup.
Ouais. Après coup,
c'est
oui.
C'est humain, quoi. C'est
ouais,
humain.
C'est normal, coup, en fait. Ouais.
Tu regrettes toujours. Ok. Et, mais c'est une belle voiture, en tout cas. C'est
une très belle voiture. Et j'ai un Cayman GTS qui est super aussi, que je me régale avec. J'ai acheté en 2016, je crois.
Mais tu te sens bien dans les Porsche? Parce que, tu sais, moi, je les trouve, c'est vraiment allemand, c'est dur, serré, tout est rigide.
C'est ça que j'aime bien, moi, ouais.
Ouais, c'est le côté un peu, l'inconfort un peu que tu peux avoir dans la bagnole de...
Ouais, pour moi, vaut mieux être inconfortable que confortable.
Ok.
Pour ce genre de voiture, évidemment, si je monte à Paris de Marseille, je vais pas monter en Porsche, hein, parce que ou alors avec une grosse Panamera, si j'ai la chance d'en avoir une un jour, ou un Cayenne, tu vois. Mais non, ça c'est pour faire des routes de montagne là, pour aller sur circuit. C'est mieux d'avoir une voiture inconfortable pour ce genre de choses. C'est plus performant en fait, tu vois. Ouais. C'est comme si je te dis, je te mets sur un tabouret ou sur le siège où t'es maintenant, tu vas te lever beaucoup plus vite d'un tabouret, donc forcément, tu vois, plus réactif. C'est un peu la même chose. Je suis plein de métaphores, moi, tout le temps. J'ai beaucoup de métaphores.
Je kiffe. Non, mais t'as carrément raison. Et moi, je me posais quand même la question, tu vois, c'est... Tu sais, on parle des assurances des footballeurs, là, qui n'ont plus rien le droit de faire. Les mecs, ils n'ont plus le droit de faire de ski, souvent parachute, je sais pas, j'en parle même pas. Mmh. Toi, t'as un gros, enfin, t'aimes beaucoup un peu l'adrénaline, faire des trucs un peu casse-cou. T'as jamais cherché des noises, justement, pour ça, ou essayer de te réfréner, sur ce genre de petits plaisirs?
Moi, j'estime que personne doit décider de ma vie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si je fais quelque chose et que quelqu'un me dit il faut pas que tu t'as pas le droit de faire ça,
ouais, déjà,
je travaille plus avec cette personne parce que si moi j'ai envie de le faire, c'est moi qui prends les risques. Le problème en fait des footballeurs par exemple, c'est que moi si je me plante, je me casse la jambe de ce week-end, je vais au ski, je me casse la jambe, ça impacte que moi au final. Si t'as Mbappé qui va skier et qui va se casser la jambe, ça va impacter beaucoup 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 de personnes, le club, les supporters, l'équipe pour la Ligue des Champions, peu importe, tu vois. Donc ça impacte plus que lui-même. Donc quand t'as un sport individuel, tu prends tes propres responsabilités. Évidemment que ton coach il préfère que t'ailles pas skier, mais moi j'ai 32 ans, tu vois. C'est pas à 40 ans que je vais me mettre sur des skis et dire allez, je vais m'amuser maintenant ou faire des sauts en parachute, même si je le ferai toujours. Mais t'as envie de le faire quand t'as 20 ans, quand t'as 15 ans, t'as envie d'aller skier avec tes potes. T'es pas un moine, tu vois. Tu vis pas dans ton monastère là à manger de la salade et aller t'entraîner. À un moment donné, il faut aussi vivre et il faut être bien dans sa tête et il faut être équilibré. Et pour être équilibré, moi mon truc c'est d'avoir des choses intenses comme ça.
Ouais. Ok. Et ça contrebalance justement la natation, la nage.
Ouais, carrément. Ouais.
Qui est, je te le disais au téléphone.
Assez rébarbative.
J'ai pas dit chiante.
Moi, je te le dis.
C'est répétitif.
Et comme je te dis, comme on parlait d'Aurélie Muller tout à l'heure, moi, je fais pas le même sport qu'elle. J'ai la chance d'être sprinter. Donc, tu vois, t'as vu un petit peu ce matin.
Il y a du jeu, quoi.
Ouais, c'était pas très intéressant ce matin, mais je fais des choses un peu différentes. C'est pas je nage non-stop, tu vois.
Beaucoup d'éducatif, de sensations.
Exactement. Mais par exemple quand j'ai fait du handball, c'était génial de pouvoir faire autre chose et d'oublier que tu fais du sport et d'oublier que tu dois forcer sur ton corps.
Okay.
Tu vois quand tu fais un foot ou un hand, tu sors de la séance, enfin au début de la séance, tu dis pas bon là, il faut que je me dépasse, il faut que j'y aille. En fait, ça vient tout seul parce que tu as une balle qui est à 10 mètres, donc forcément tu vas sprinter.
Ouais.
C'est pas un mec qui va te dire là, tu dois sprinter pendant 10 mètres. Et c'est des choses, tu sors de ta séance de hand, tu t'es défoncé, mais intérieurement tu t'es pas dit bon là c'est maintenant, il faut que j'y aille, il faut que mon corps il y aille, tu vois, c'est très très différent. Donc je fais d'autres choses à côté.
Ouais, ok. C'est hyper intéressant. T'as mentionné le handball, t'en as retenu quoi un peu de avec le recul? Je sais qu'on t'a posé beaucoup de questions à chaud, tu vois, les journalistes et tout, mais là tu vois, vu que ça fait deux ans,
ça fait bientôt 4 ans que j'ai arrêté le hand il y a 4 ans. Ouais.
Tu retiens quoi et quel enseignement de cette période-là, de ce
beaucoup
break?
De plaisir j'ai retrouvé le plaisir du sport en fait, le plaisir de comme je te disais tout à l'heure, quand t'es dans la cour de récré avec tes potes en primaire ou au collège, tu joues au foot et tu t'éclates en fait. Et quand tu fais un sport à haut niveau, t'es tout le temps dans le détail, tu décortiques tout, les datas, choses comme ça. Et au hand, j'ai pas fait ça parce que déjà j'avais pas le niveau.
Ouais.
Moi j'étais en National 2, j'ai pas commencé à dormir 8h30 par jour au lieu de 7h30, je m'en foutais, tu vois, c'est autre chose que je cherchais.
Ouais.
Donc je dirais ça, le plaisir de la pratique sportive.
Ok. Si je reviens juste rapidement aux voitures, parce que je m'étais quand même noté la question, si tu gagnes à Paris, ce que je te souhaite, tu vois, qu'est-ce que tu t'offres? Parce que tu vois, faut marquer le coup, non?
Ouais, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu des Porsche. J'ai eu la chance de pouvoir m'acheter ma première Porsche, d'échanger ma première Porsche quand j'avais 20 ans. Donc j'avais une 206. J'ai acheté une Porsche 900. Enfin, j'ai échangé ma 206 S16 contre une Porsche 944.
Okay.
Et après, donc j'ai gagné les jeux. Je me suis acheté donc la 965 et à chaque fois. Donc je revendais et je rachetais. Je revendais, je rachetais. Donc là, c'est ma quatrième Porsche. Donc je crois que celle-là je l'aime bien, tu vois, pour l'instant, mais
t'as fait le tour.
J'ai fait le tour, mais il faudrait que j'aille un peu plus sur circuit, des choses comme ça. Je suis pas sûr de m'acheter une voiture si jamais je gagne les jeux. Je vais peut-être plus acheter un appart, tu vois. Alors la prime c'est pas de acheter un appart, mais
ouais,
faire un petit peu plus d'apport, mais ou un voyage, tu vois. La voiture je l'ai déjà et je suis pas très matérialiste. Ouais, j'ai une moto et j'ai une moto qu'on me prête d'ailleurs, mais j'ai une voiture et c'est tout quoi. Après le reste, moi les fringues, voilà, je m'en fous un peu. Je vais me faire plaisir à moi, voyager, faire des restos avec des potes, tu vois, dans le moment présent, m'acheter un truc à 10 000 balles qui va pas me servir ou des chaussures à 800 balles.
Ouais.
J'en ai, tu vois, j'ai peut-être une ou deux paires, mais C'est pas ma passion. Ou les bijoux, tu vois, je porte pas de montre, je porte rien parce que je suis pas sensible à ça en fait.
Ouais. Voilà. Plus dans l'expérience, quoi.
Ouais. Ouais. C'est ce que je préfère. Après, je respecte totalement ceux qui aiment les montres. Je trouve ça très beau une montre, hein, mais moi ça m'attire pas plus que ça.
Ouais. Après ouais, des fois tu te passionnes pour des trucs, pour des objets, et c'est pas forcément l'objet ou le fait de détenir l'objet qui te plaît, mais plutôt comprendre d'où ça vient, d'où comment ça marche.
Et je te dis ça, peut-être que tu vas me voir l'année prochaine, je vais te dire, ah, les montres, c'est vraiment incroyable. Parce que je vais avoir ma lubie, tu vois. Mais
moi, je suis tombé dedans, tu vois, via un pote, pareil, qui est passionné, qui m'a dit, ouais, ça, c'est fabriqué comme ça, ça me
Ouais, mais c'est sûrement très intéressant, je suis juste pas tombé dedans encore.
Ouais, voilà, c'est ça. Puis une fois que ça te tique. Ok. Dernière petit sujet, et après, c'est la rubrique de la fin. Sujet, une passion qu'on partage, les tatouages. J'ai vu que t'en avais pas mal. C'était quand le premier? Et c'était quoi?
C'est mon signe chinois sur l'aine, là. Ça veut dire se surpasser. J'ai fait ça quand j'avais, je dirais, 17 ans, 16, 17 ans.
Ok. Les parents ont pas crisé?
Non, je leur ai demandé. Good boy. Je leur ai demandé. Ma sœur s'était fait un tatouage à 14 ans, donc.
Ok.
On peut pas dire non dans ces conditions.
Elle avait défriché, quoi.
Ouais.
Ok, ça marche. Et il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Ou que tu...
Le gorille, je pense que c'est celui qui me caractérise le plus en ce moment, parce que c'est un animal que j'aime déjà physiquement. Mmh. Et on me compare beaucoup au gorille parce que, ou physiquement, je suis costaud. Mais aussi parce qu'un gorille, c'est doux, tu vois, c'est très famille aussi, c'est un peu une force tranquille, le gorille.
Ouais.
Mais ça a aussi des valeurs très fortes. Donc, je me suis tatoué ça parce que j'aime beaucoup l'animal, j'aime beaucoup les valeurs et ce qui se transpose aussi dans cet animal.
Ok. Donc, et ouais. Le prochain tatouage, t'as déjà une idée ou?
Moi, j'en ai trois.
Là, t'en as trois?
Ouais. Non, enfin, j'en ai trois.
T'as prévu d'en faire trois.
J'en ai trois en préparation.
Alors, vas-y, on a le scoop.
J'ai le petit cœur avec Quentin, le coach.
Okay.
Voilà, ça, c'est des trucs de, c'est un petit cœur, tu vois. C'est les Japonais ou les Coréens qui font beaucoup ça. Pour éviter de faire un cœur comme ça, tu vois. En fait, j'aime beaucoup les histoires avec les potes, moi, pour les tatouages.
Ok.
C'est beaucoup, beaucoup ça. Je vais me faire un tatouage avec un autre nageur, Kyle Chalmers. C'est genre, tu sais, les doigts qui font comme ça, là.
Hop. Ok.
Avec un, je pense, un drapeau français, drapeau australien, un peu mixé dedans, tu vois. Et je vais me faire une phrase, rules are meant to be broken, ce qui veut dire les règles sont faites pour être transgressées. Voilà. T'as un peu un peu de tout, tu vois.
Et toutes les...
Voilà, et ça c'est un peu mon côté, personne me dit quoi faire, tu vois. Là je me suis fait récemment don't do it et j'ai barré le don't en rouge, tu vois.
Ouais.
Pour dire. Mais ça veut aussi dire, si tu veux faire un saut en parachute, vas-y. Si tu veux aller, faut aller au bout des choses, tu vois. Fais-le, hein. Arrête de dire non, ça, je vais pas le faire. Les gens te disent toujours, faut pas faire ça.
Ouais.
Fais-toi ta propre expérience.
Ouais, clairement, ouais. Ah, puis toi, t'es vachement dans le faire, dans l'action, quoi. Enfin, ouais. Ça se voit que c'est comme ça que tu prends ton plaisir et essayer de faire des trucs, quoi.
Je mentalise les choses, évidemment, comme je te dis, avant de connaître un sujet, mais après, par contre, si je veux sauter en parachute, je vais y aller. Je vais pas regarder tous ceux qui sont morts en parachute, tu vois. Non.
Bien sûr.
Comment tu fais rien, hein.
Ouais, clairement.
Tu fais rien.
Il y en a un que tu regrettes?
Non. Il y en a, en fait, le plus gros, là, mon gros tribal, c'est le seul qui n'a pas de meaning, en anglais.
De sens, de signification.
Ouais, de signification. Il a pas de signification, et du coup, c'est le seul.
Ouais, tu l'as fait juste pour l'esthétique.
Ouais.
Ok.
Et je trouve ça
le plus gros, du coup.
Ouais. Mais ça me dérange pas parce que les gens me reconnaissent aussi par rapport à ça. Et ouais. C'est un peu ma marque de fabrique.
Ça en fait partie.
Et je le trouve toujours joli, donc ça va. Mais c'est vrai que je suis plus content de tous les autres parce que. Ouais. Ça me fait penser ça à ma famille, ça me fait penser à un pote, un autre pote, à ma copine, tu vois. Enfin, et c'est ça qui est important, je trouve, dans les tatouages. C'est pas forcément le dessin en lui-même, c'est plus ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Parce que le dessin, après 2 ans sur ta peau, tu le trouves joli, mais t'es pas aussi excité. Les premiers jours, t'es là, tu regardes dans le miroir, putain, est-ce qu'il est bien? Est-ce que l'angle, il est bien? Est-ce que ça va bien sur mon corps? Au final, quand tu l'as vu pendant 2 ans non-stop, tu vois, il est joli, tu le trouves toujours beau, mais c'est pas la même chose.
Ouais, mais clairement, tu vois, moi, celui-là, faudrait que je le fasse repasser, tu vois.
Il est super, super beau, tu vois, mais vu que tu le vois tous les jours.
Exactement. Ouais, voilà. Puis ouais, forcément, il se détend un peu. Tu t'es repassé sur certains?
Je suis repassé sur le gorille parce qu'il était, il manquait un peu de couleur, mais voilà. Pas beaucoup, non.
Ok. Écoute, j'arrive à la toute dernière, À la toute dernière petite section, c'est un petit tu préfères. Ouais. Et tiens, tu me diras, tu peux répondre très rapidement si tu as envie de d'ajouter des petits détails, tu peux. Mais l'idée c'est que ça soit un petit peu fun, c'est assez court. La toute première, c'est est-ce que tu préfères rouler en Porsche toute ta vie ou rouler en 206 toute ta vie, mais tester la Bugatti Veyron tous les week-ends?
En Porsche.
Porsche direct.
Mais pas intéressante la Bugatti Veyron.
C'est vrai. Tu l'as testé déjà ou pas?
Non, je l'ai pas testé, mais c'est une voiture qui va vite dans les lignes droites, quoi. Ouais. Moi, je veux aller vite dans les courbes. C'est ça qui importe. rouler à 350 ou 400, je trouve que c'est pareil, en fait. Alors, je roule pas à 350 avec la Porsche parce qu'elle va pas à 350. Ouais. Mais la sensation, je trouve qu'elle est plus dans les courbes et en parallèle en moto, c'est pareil. J'ai roulé à plus de 300 en moto sur un circuit. Mais je préfère prendre une courbe bien serrée à 40 en posant le genou, tu vois, t'as plus de sensations. Ouais. Je trouve. Hein.
Ah.
Donc, la Porsche.
Ok, direct. Paris 2024, la question qui pique, l'or en équipe ou l'argent en solo?
Si tu veux choisir. Je peux pas choisir ça. Je peux pas choisir ça parce que, en fait, on est deux à avoir fait trois médailles consécutives sur le 50 dans l'histoire des jeux. Et si je fais quatre, je serai le seul. Mais j'ai aussi envie d'avoir un autre titre olympique. Donc c'est soit les deux, soit aucun des deux. Je peux pas choisir ça. Non, mais je dirais quand même l'or en équipe parce que c'est un autre titre. Et en plus, quand tu partages des choses avec l'équipe et devant le public français, c'est incroyable. Donc, je dirais quand même l'or en équipe.
Ouais, je peux comprendre. Il y a la symbolique aussi.
Ouais.
T'es le capitaine, tu vois. Ça.
Ouais.
Mais désolé, c'était la question qui pique. Je savais que c'était dur. Est-ce que tu préfères avoir des super cheveux toute ta vie, ne jamais en perdre, ou ne plus jamais avoir à te raser ni t'épiler?
Attends, redis, de super cheveux.
Donc, garder tes cheveux jusqu'à la fin de tes jours.
Ouais.
Tu vois. Ou ne plus jamais avoir à te raser et t'épiler. Ouais, pour le coup, le truc un peu chiant du nageur qui sera sur
ouais,
le
temps, je préfère garder mes cheveux. Ouais. Okay. Carrément. Je m'en fous de me raser après ma carrière, je m'en fous. Je me raserai d'ailleurs pas.
On fait ça après. T'arrêteras, c'est sûr.
Ouais, ouais, bah, je suis pas très poilu parce que le chlore, ça brûle un peu les poils, tu vois, mais j'arrêterai de me raser, ouais, évidemment.
Ok. Ah, je savais pas ça que à la longueur, le chlore, ça te...
Ça brûle en fait. Ouais, soleil plus chlore, c'est pour ça. T'imagines, ça brûle les poils. Imagine pour les poumons. C'est pas top, quoi.
Ouais.
Après, chaque sport a ses problèmes. Hein. Quand tu fais du foot, t'as mal au genou. Après, quand tu fais de la boxe, t'as mal de partout. Enfin, ouais. La natation est quand même assez bon là-dessus.
Ok, ça marche. De quoi vous parlez au dîner de famille à Noël? C'est plutôt chrono, plutôt voiture ou plutôt guitare? Maintenant, ça doit être très enfant.
Ouais, c'est enfant, ouais, c'est les derniers Noël que j'ai fait en famille, parce que le dernier que j'ai fait, je l'ai fait avec mon meilleur pote en Australie. Le dernier que j'ai fait, c'était chez ma sœur. On a plus parlé, je pense, musique que sport en général, mais pas forcément natation, en fait.
Ok.
Musique, sport.
Ça marche.
Faut éviter la politique, et faut éviter le vaccin, tout ça. C'est des choses, faut vraiment éviter tout ça.
Ça, on l'a bien compris, tu vois. Ah, ouais, deux ans, on sait que les sujets sensibles, faut les éviter. Quoi.
Faut pas.
La santé, c'est chaud.
Ouais.
T'as déjà perdu au bras de fer?
Non, mais forcément des gens qui me battent. Mais je m'entoure de potes qui sont moins forts que moi. Mais non, j'ai sûrement quand j'étais jeune, évidemment, mais maintenant, non, je ne perds pas.
J'aimerais bien.
Mais j'en fais pas tous les jours non plus. Hein. Si j'en fais un par an de bras de fer, c'est le bout du monde.
Ok. Moi, si j'étais ton pote, je serais un peu plus taquin. Je me défierais plus souvent, tu vois. Sur un malentendu. Une fois, ça passe, tu vois.
Après une séance difficile, tu me prends, tu vois. Ouais, on sait jamais.
Ok. T'as déjà perdu ton permis?
Oui.
Ok.
Pendant 3 mois.
Ok.
3 ou 4, je sais plus.
Ça se raconte ou ça se raconte?
Ouais, j'étais sur une route départementale, je suivais un mec qui roulait à 130, tu vois. C'était limité à 80, plus 50. Ah. Je crois. Je sais même pas si c'était 80 ou 90 à l'époque encore.
C'est les flics qui te rattrapent ou c'est un radar fixe?
C'est jumelles, je crois.
Jumelles,
donc et apparemment ils arrêtent toujours le deuxième en fait.
Ok.
Parce que s'ils arrêtent le premier freine, ça peut faire un accident. Je sais pas si c'est une théorie vérifiée, mais mais donc j'étais à 134 au lieu de 90, je pense que c'est ça, plus 44, ce qui est pas non plus ça va, tu vois, ça dépend de la route,
oui.
Mais sur une double voie
normalement ça passe, ouais.
134, tu peux aller beaucoup plus vite qu'à 134, tu vois. Et ça dépend aussi de la voiture que t'as, et ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses.
Et du coup, ils t'arrêtent et ils te disent pas bonjour monsieur Manodou, ou c'est non, ils te l'envoient pas.
Si, si, ils m'arrêtent, ils disent ça, mais c'est... à un moment donné. J'ai eu plein de fois où les. Où la police ou les gendarmes m'ont arrêté et m'ont laissé repartir. Ça, c'est le côté cool d'être un peu connu. Notamment, la vitesse, généralement, elles sont pas super sympas. C'est pas qu'ils sont pas sympas, ils font leur job.
Ouais. Mais, c'est rationnel, en plus, c'est facile pour eux, tu vois.
Pas de... Mais le téléphone, tu vois, par exemple, tu changes de musique. Jamais j'appelle. Puis maintenant, t'as les Bluetooth, tu vois. Enfin, t'as au CarPlay. Donc, quand t'appelles, t'as pas besoin. Mais tu sais, des fois, tu changes une musique ou tu mets ton GPS, bah. La police derrière, il t'arrête, normal. Et moi, quand il voit que c'est moi, on va dire 7 fois sur 10, il me laisse repartir. Ouais. Donc c'est cool. Mais ils vont aussi laisser repartir 5 fois sur 10 un autre mec. Ouais, moi, j'ai juste un petit peu plus.
Ah ouais.
Ils mettent pas à chaque fois des amendes. C'est pas vrai, ça.
Bah, bien sûr. Si t'es un peu sympa, que t'avoues ta faute,
ouais,
et que tu me prends pas pour un idiot, tu vois.
Ouais, non, moi, je dis, bah, je suis désolé.
Ouais. Ouais, j'ai fait.
Soit tu mets les points.
Faites ce que vous voulez, monsieur.
Voilà, mais c'est ce que tu fais ton job. Si tu veux pas me les mettre, tu me les mets pas. Mais ouais. Si t'es sympa, généralement, ils sont sympas avec toi.
Ouais, exactement. Toujours être sympa avec les gens qui font un métier qui est pas évident, tu vois. Mm. C'est un petit mantra de vie. Toute dernière question que je demande à tous les invités, et puis après je te laisse manger et faire la sieste. C'est un peu comme un passage de flambeau, mais c'est un passage de micro. Bon, on a cité pas mal de monde là aujourd'hui.
T'as oublié une question que tu m'as dit avant en préparation.
Laquelle ?
Est-ce que je suis allé à plus de 300 km/h ? Non, à plus de 200 km/h.
Ouais, exactement. Est-ce que t'es déjà...
Ouais, je me souviens bien.
Je l'ai noté et puis je me suis dit, bon, il a plus ou moins dit dans les... Bah, à 350 ou à 400, c'est pareil. Donc bon, la question fait un peu de saveur.
Je suis monté à 318 en moto, à moto, sur circuit.
Avec quoi ?
Panigal V4.
Ok.
Ouais.
Ça envoie, ça. Ça c'est...
Ouais, beaucoup trop.
Et ça, tu te fais peur avec ça.
Et je suis monté avec la Porsche que j'ai achetée après les jeux, je suis monté à 295.
Ok.
Mais j'étais pas sur circuit.
On dira pas où. Non, mais en plus, il y a plein de radars ici sur les autoroutes du sud.
C'était pas ici, ouais, c'était en fait, j'avais mon meilleur pote dès l'époque qui est décédé en moto 3-4 ans après. On était casse-cou tous les deux, tu vois, on aimait bien la vitesse. Donc, comme en go fast, en fait, il est passé devant. Et il m'a dit, bah, c'est bon, il n'y a pas de flic, et du coup, je suis repassé, j'ai la vidéo en plus, la vieille Porsche.
Voilà. Okay.
Donc, on avait bien la vitesse, lui, malheureusement, il est décédé il y a 10 ans cette année, donc.
Ok, je savais pas ça de toi.
Ça, c'est comme ça, hein, quand t'as de l'intensité,
faut l'accepter. Ouais.
Problème, quand t'as 20 ans, tu fais des. Il y a des moments où t'abuses un petit peu, tu vois, et je préfère, tu vois, qu'il soit mort plutôt que légumes ou. Dans un fauteuil roulant, ce mec-là, c'était pas possible, c'est comme moi, tu me mets comme Stephen Hawking, tu vois, c'est pas possible. Alors, j'aime trop le sport, j'aime trop bouger, et c'est trop dur, donc c'était un moment dur, mais ça forge aussi, tu vois, ça fait 10 ans maintenant, et
ouais.
La mort fait partie de la vie, et malheureusement, c'est dur quand t'as 23 ans, mais c'est comme ça.
Ouais, non, et puis c'est sûr, quand t'es jeune, tu te dis, putain, quelqu'un a du talent et tout, et tu te projettes, tu vois, sur la suite. Donc,
ouais, après, écoute, c'est dur pendant quelques mois, et après, bah, t'acceptes, et puis voilà, tu passes à autre chose.
Ouais. Ça marche. Bah, merci.
Reprenons les choses un peu plus joyeuses.
Mais merci de m'avoir rattrapé sur la dernière question, et du coup, bah, comme je te disais, c'est un passage de flambeau, mais c'est un passage de micro aussi. T'as cité pas mal de noms, donc je sais qu'il y en a 2-3 que je me permettrais d'aller contacter, surtout que j'ai pas eu beaucoup de nageurs jusqu'à présent. Mais est-ce qu'il y a une personne, un athlète que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler gratte, astro, bécane, de parler de plein de trucs, mais pas trop de sport. Parce que je sais aussi qu'il y en a quelques-uns qui ne savent parler que de sport. Mais...
Greg Mallet, il fait beaucoup de choses.
Ok.
Donc il est intéressant. Après, si tu veux parler sport, en fait, il y en a que je connais pas trop encore. C'est une relation très récente. C'est Mathieu Fèvre. En fait, c'est mon préparateur mental qui me fait découvrir d'autres sports, parce que moi j'adore. Okay. Et donc Mathieu Fèvre, qui est originaire d'Isola, je sais pas si tu le connais, si tu l'as déjà interviewé, mais qui est un mec super sympa, très intéressant, et Quentin Delapierre, qui est pilote de voile, du coup. Et je pense... Okay.
Très cool.
Ouais, je dirais Quentin, aussi, Quentin Delapierre, qui est... Je pense qu'il est intéressé par beaucoup de sujets.
Ça marche. Bah écoute, très cool. Merci pour les recos. En plus, je les connais pas bien. Du coup, ça va être l'occasion de pouvoir les rencontrer. Écoute, merci infiniment, Flo. C'était cool. Ça t'a plu comme
Format cool. Puis quand on est à la maison, c'est à la cool. C'est plus facile.
C'est clair. Bon, bah écoute, merci pour ton accueil. En tout cas, merci pour cette matinée de fou. Et puis, je vais te laisser manger ton bagel. Et puis, comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc, je te dis à très vite.
On se reverra vite. Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.